Et si aujourd'hui nous revivions la traversée de la France d'Hermano, je l'ai invité pour faire le bilan de son incroyable traversée en swimrun. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour mes championnes et mes champions, c'est Bertrand, j'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les lundis, mercredis et samedis de course à pied, de sport, surtout de mouvement, et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité, bouger, prendre confiance en nous, bien vieillir et devenir des vieillards galopants. Si vous me découvrez ou découvrez le podcast maintenant, il y a quelques années j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kilos. Après un rééquilibrage alimentaire et la reprise du sport, j'ai perdu 27 kilos, je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde, et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres et des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et si vous souhaitez retrouver tous les épisodes de tous mes podcasts ainsi que des conseils complémentaires ou mes programmes et coaching, rendez-vous sur mon site bertrandsoulier.com. Le lien est dans la description de l'épisode. Et aujourd'hui, je reçois donc un athlète qui vient de réaliser un exploit gigantesque, champion du monde de son monde. Il a bouclé il y a quelques semaines maintenant la traversée de la France en swimrun, course et natation. Et bon, Hermano, bien sûr, un habitué du podcast, un ami, je l'avais reçu juste avant le départ pour parler de la préparation de son défi, ce fameux défi Agrippa, hein, de partir de Dunkerque et pour arriver jusque dans le sud, et la frontière italienne à Menton. Et vous savez aussi que j'avais rejoint pendant 2 jours pendant son défi pour partager une partie du parcours avec lui. Alors, je l'ai invité cette fois-ci pour faire le bilan, comment s'est déroulé son défi. Alors, bien sûr, parce que j'avais eu quelques anecdotes pendant qu'on a couru ensemble, pendant les soirées qu'on a passées ensemble, et puis un petit peu par les messages, un petit peu par ce qu'il partageait sur WhatsApp, etc., sur Instagram. Mais finalement, il n'y a rien de mieux que de raconter ça, d'en discuter, de refaire un petit peu le monde aussi par moment, etc. Donc en fait, je l'avais invité pour savoir comment c'était passé, quelles étaient les bonnes, les mauvaises surprises, les très mauvaises surprises d'ailleurs par moment. Hein. On a parlé aussi des très bels accueils, de l'accueil très chaleureux dans certaines villes, et puis des mauvaises rencontres avec ceux qui ne veulent pas partager la route ou la ligne d'eau à la piscine, par exemple. De ses repas, de ses nuits, des photos, des souvenirs qui resteront, de cette magnifique photo de fin, notamment avec sa famille, puis aussi du retour au quotidien difficile, des relations compliquées aussi qu'il a vécu avec son entraîneur. Il était très transparent dessus, hein. Et d'ailleurs il donne des conseils qu'il peut donner à ceux qui veulent partir ainsi. Et puis on a d'ailleurs parlé de la différence entre la vision que lui il avait, son entraîneur avait, de la différence aussi qu'on peut voir dans un défi entre le côté défi personnel, défi caritatif, défi sportif, l'aventure, comment la logistique rentre là-dedans, comment il a vécu ça, le fait de, par exemple, on a parlé des faits de dormir en hôtel plutôt que de dormir dans le van, est-ce que ça aurait changé quelque chose si il avait dormi plus dans le van, ils avaient moins eu en hôtel, s'ils mangeaient différemment, comment il aurait récupéré. On a parlé un petit peu de toutes ces dimensions-là, vraiment de toutes ces dimensions-là. Et puis on a aussi parlé du budget que ça représente, hein. Vous allez avoir vraiment le chiffre, Hermano donne le chiffre, combien il a collecté pour les associations, combien ça lui a coûté de sa poche de faire ce défi, hein, tout simplement, depuis le mois d'août dernier qu'il s'est lancé dans la préparation, je vous rappelle 37 semaines de préparation. Et donc vraiment, vous savez, vous avez l'habitude, hein, Hermano, comment on commence à discuter, comment on commence à papoter. Imaginez, hein, vous êtes à l'arrière de la voiture en train de nous écouter, discuter, on refait un petit peu le monde, on revient un petit peu les aventures qu'on a vécues, que j'ai partagées moi à distance et puis juste 2 petits jours un petit peu avec lui. Je suis vraiment content, hein, d'avoir suivi cette aventure, de voir Hermano, comment il a réussi à mener son projet, de l'avoir accompagné aussi un petit peu sur 2 jours, et puis vraiment de la discussion qu'on a tous les deux dans cet épisode qui m'a mis beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, et j'espère que ce sera pareil pour vous. Maintenant, écoutez, je vous laisse avec ma discussion avec Hermano. Allez, c'est parti.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Salut Hermano.
Salut Bertrand, salut à tous.
Comment vas-tu?
On va dire que ça va bien. Je suis fatigué. Bizarrement, je suis très fatigué depuis quelques semaines.
C'est vrai? Bizarrement, parce que moi, la dernière fois que je t'ai vu, tu étais en pleine forme, la patate, etc. et tout. Mais là, t'as les petits yeux.
Ouais. J'étais en pleine forme jusqu'au 14 juin. Et puis du 14 juin à aujourd'hui, on enregistre, je crois que c'est un secret pour personne, hein, tu diffuses quasiment dans la foulée des enregistrements, ouais. On est le 4 juillet et je suis défoncé.
Effectivement, parce que là, ce sera l'épisode du 5 juillet et on enregistre ça le 4 juillet à 15h08, heure de la sieste, normalement, enfin pour moi, pour toi, je sais pas si tu fais la sieste ou pas, c'est certain.
Ça dépend, j'ai fait la sieste pendant un petit mois, tu vois, et depuis que j'ai fini mon périple, je fais plus de sieste, c'est pas bien, ouais. C'est pas bien.
Puis toi, tu fais des siestes de 2 minutes 30 sans le dire, sans rien comme ça, hop. Non mais franchement.
Il paraît. J'ai vu passer ça sur LinkedIn, j'ai vu passer une photo, j'étais même pas au courant. Je réclame des droits d'auteur.
Non mais franchement, ça va que j'ai eu ta coach sommeil qui m'expliquait que c'était pas du pipeau, parce que sinon j'aurais pas cru le truc, franchement. Si je t'avais pas vu le faire, je l'aurais pas cru.
Ouais, bah écoute, tu vois, c'est bien qu'il y ait quelqu'un pour témoigner, et en plus, quelqu'un d'aussi connu et reconnu que toi. Donc je te remercie, Bertrand.
Alors, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que t'avais fait la sieste, je crois que je l'ai dit dans le post, que t'avais fait la sieste aussi, le matin à Belleville, avant de partir. Alors là, 1h30 ou 2 minutes, je dis, mais il se fout de ma gueule, en fait, c'est pas possible et tout.
Non, c'est vrai. C'est vrai que pendant ce défi, j'ai développé une aptitude que je ne croyais pas possible, mais à faire des siestes et à m'endormir vraiment quasiment à la volée. Ça, c'est aussi grâce à Lucille que tu as reçu dans ton podcast, aussi à Marc Moeza, mon préparateur mental, qui m'a donné quelques techniques pour pouvoir m'endormir assez facilement. Et franchement, ça m'a bien aidé pour réussir à mettre en place cette routine de sieste. Et le fait d'avoir mis cette routine de sieste en place, m'a elle aussi bien aidé pour récupérer. Je pense que tu peux en témoigner, hein, quand t'es venu à Belleville et qu'on a été jusqu'à Mâcon, j'avais l'air plutôt frais,
fait,
hein, j'étais pas trop défoncé.
Sens, monsieur. On l'a fait dans l'autre sens. Je t'ai rejoint à Tournus, on est descendu à Mâcon et à Belleville.
C'est ça. Et on a dormi à Belleville et le lendemain,
c'est même pas un mois que t'es rentré, déjà tu sais même plus dans quel sens tu l'as fait. Ou alors ça veut dire que tu vas le faire dans le sens sud-nord dans quelques mois.
Question suivante.
Alors, tu feras gaffe, hein, quand t'arrives à Mâcon et tout, tu prends bien le long de la Saône, hein, tu prends pas le long de la route parce que c'est un peu pénible, hein, elle est un peu trop fréquentée cette route. Hein.
C'est ça, mais il faut que je me trouve un assistant, un accompagnateur qui respectera les timings qui ont été fixés, mais ça c'est un autre sujet.
On va rien dire. Bon, alors écoute, bien sûr, enfin, comme t'es l'invité qui est venu le plus souvent et que t'es venu il y a 2 mois à peine pour nous dire le avant Agrippa comment ça s'était passé. On va renvoyer tout le monde sur les anciens épisodes, etc. Mais quand même, on va dire en un mot, hein, t'as traversé la France en courant, en nageant de temps en temps.
C'est ça, exactement. J'ai pas nagé autant que j'aurais voulu, mais par contre, courir, oui. Bon, il m'a manqué un petit 100 km sur ce que j'avais prévu. D'ailleurs, je comprends pas où était la différence. Mais bon, ça, c'est une histoire de tracé aussi, on pourra en reparler. Mais au final, ça fait 1368 km et 36 km, donc de 1368,9. Donc, allez, 1369 km de course à pied et 36 km de natation. Donc, la natation, c'est pas énorme. J'avais prévu entre 90 et 120, mais bon. Je vais pas me plaindre. Déjà, j'ai couru presque 1400 bornes en 26 jours d'activité. Je trouve que c'est pas si mal.
Ouais. Et tu vas pas te plaindre, hein, surtout que tu as plongé dans la Saône, alors qu'au milieu des bateaux de croisière, des requins et des gros poissons et tout, t'as eu du bol de pas te faire bouffer ce jour-là, franchement. Enfin, quelle idée,
c'est
quoi.
Ça. C'est surtout toi qui as eu du bol, parce que là, si je me souviens bien, si je mélange pas, j'ai plongé dans la Saône le lundi matin et toi, t'arrivais le lundi soir. Donc, j'ai eu de la chance. Enfin, c'est toi qui as eu de la chance, c'est de me retrouver entier, parce que ça se trouve, tu serais venu pour rien, puis tu serais reparti le lendemain, ça aurait un peu foutu en l'air tes plans. Hein.
Non, c'est pas grave, j'aurais mangé un burger, je serais rentré, tu sais, moi, tant que t'avais un burger à l'arrivée. Est-ce que je précise ce que j'ai fait, hein, d'ailleurs, donc c'est pas le problème. Moi, non, tu te sois fait bouffer, bon, écoute, je suis redescendu un petit peu, tout, c'est pas très grave, hein, franchement. Non, j'étais content de te retrouver entier quand même, parce que nager dans la Saône, je me dis, enfin, il y avait quand même des gros bateaux qui passent, etc. Parce que pour ceux qui ne savent pas, il y a des gros bateaux de croisière quand même énormissimes, hein, avec où les gens dorment dessus, des hôtels flottants, alors qu'ils ne sont pas aussi gros que les gros bateaux de croisière, mais qui sont quand même très longs, ça fait des grandes péniches. Voilà, j'étais content de te retrouver quand même entier.
Ouais, bah écoute, dans la Saône, j'en ai pas vu ces gros bateaux-là, en tout cas à ce moment-là. Alors, est-ce que c'était dû à la période, c'était sur le week-end de l'Ascension, je crois. Non, de la Pentecôte, je sais plus.
Pentecôte, ouais. Lundi Pentecôte.
Pentecôte, ouais, lundi Pentecôte. Est-ce que c'était parce que c'était un week-end prolongé et qu'il y avait pas trop d'activité? Franchement, j'en ai pas vu. J'en ai vu sur le Rhône, notamment quand je suis arrivé à Avignon, ces espèces de gros bateaux de croisière. Limite, tu sais, ça me fait penser à certains bateaux casino comme on voit aux États-Unis. Mais alors par contre, sur la Saône, en tout cas au niveau de Tournus, j'en ai pas vu.
Bah, y en avait un qui était acquis, en fait. Tu l'as pas vu, ce qui était à quai?
Ouais. Oui, il était juste à quai, en fait.
Avec les gens qui montaient, pas. Qui descendaient, qui buvaient de l'apéro en te regardant en train de nager, en disant « Oh là là, il y a un mec qui est en train de nager au milieu du truc, qu'est-ce qu'il fout ?» Non, tu n'as pas vu ces gens-là? Ils ont fait une vidéo.
Non,
là,
je ne l'ai pas
TikTok.
Vu.
Tu n'as pas vu?
Ah, d'accord.
Non. Et d'ailleurs, le, ça se trouve, le nouveau faut regarder, parce que ça se trouve, un jour, tu vas remonter sur une vidéo, il y a un mec qui a nagé dans le truc et tout, vous ne vous rendez pas compte, c'est incroyable, etc. Bon, alors, maintenant que ça s'est dit et que tu as traversé la France, est-ce que tu as eu des surprises, franchement, entre comment tu avais prévu ton truc au départ, comment tu pensais que ça allait se passer et comment ça s'est passé?
Alors écoute, j'ai eu quelques surprises. La première, et je dois bien le dire, et j'en suis vraiment extrêmement heureux et satisfait. Et là, pour le coup, le mérite revient à Paul Sardin, mon entraîneur, mais aussi à toute la team autour d'Agrippa qui m'a aidé, conseillé, soutenu, appuyé pendant de nombreuses semaines. J'ai fini très, très, très bien, très en forme. Et j'ai même envie de dire que j'ai fini, de point, ouvrez les guillemets, avec la manière. C'est-à-dire que j'ai fini plus vite que ce que j'aurais dû, plus fort. J'ai même été un peu arrêté parce que le point d'arrivée était pas exactement celui qu'on avait prévu dans le GPS, et donc je savais pas trop où est-ce que je devais m'arrêter. Et puis il y a des journalistes, enfin il y a un journaliste qui voulait faire absolument des photos, qui me courait après depuis Monaco. Et donc finalement, je voulais finir les derniers kilomètres à bloc, mais vraiment me donner, me pousser comme un taré. Et puis j'ai été un petit peu arrêté quelques centaines de mètres avant, et la ligne d'arrivée virtuelle était plus proche que ce que j'espérais, enfin plus proche que ce qu'on avait prévu. Donc du coup, j'étais un peu arrêté dans mon élan, mais non, franchement, je suis très 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 content parce que ce que j'en retire, alors moi je suis très mauvais pour tirer des leçons, faire des conclusions, faire des récits de course, etc. Parce que je garde souvent que le meilleur ou alors le très très mauvais, et ben moi je retiens que du bon de cette traversée. Il y a eu un jour ou deux qui était un peu difficile en termes d'effort, mais sinon tout le reste, franchement, j'ai eu l'impression que ça passait facilement, et je te dis là, trois semaines après, je suis très fatigué et j'ai vraiment du mal à me remettre dans le bain d'une vie normale, tellement c'était une expérience agréable et confortable, on va dire, dans laquelle j'étais.
Ouais. Bon, après, bon, une des étapes difficiles, c'était le Morvan, hein, faut le dire.
Oui, non, mais je te dis, il y a une ou deux journées, une ou deux étapes qui étaient dures, à commencer par le Morvan. Vraiment, je m'attendais pas à ça. Je pense que le tracé que Paul avait fait n'a pas aidé parce que on est beaucoup passé entre les vignes. Alors entre les vignes, sur du bitume, mais au milieu des vignes, et ça, c'est des tracés qui montent et qui descendent encore plus que la route. Et ça, c'était vraiment pas toujours facile, mais c'était plus le vallonné, et puis le fait que je ruminais un peu, je gambergeais un peu, parce que moi je voulais faire ce défi que j'ai appelé Agrippa sur les traces de la Via Agrippa. Et pour moi, il y avait des moments où on sortait de la trace originale ou originelle, et c'est ça qui m'agaçait, et c'est ça qui rendait le défi un petit peu plus difficile. Mais sinon, franchement, à part une journée et demie dans le Morvan à faire un peu du trail, l'avant-dernière étape, quand je faisais Saint-Raph jusqu'à Cannes, où finalement je suis passé par le massif de l'Estérel, mais pas par les bords de mer, mais vraiment par l'intérieur, donc en mode trail, où le tracé qui avait été fait m'emmenait au-dessus d'un ravin. Donc en gros, j'avais le choix, c'était soit je me suicidais en sautant de 10 mètres de haut d'une falaise, ou alors je contournais comme je pouvais. Du coup, j'ai fait 2 heures de plus que ce qui était prévu, et puis c'était vraiment du trail pour le coup, chose à laquelle j'étais pas forcément préparé, et encore une fois, je gambergeais un peu parce que je doute que les Romains passaient par là avec les chars, les chevaux et tout le matos qu'ils avaient à trimballer. Mais en dehors de ça, c'était une très 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 belle expérience, et quand j'étais aussi bien dans le Morvan que dans le massif de l'Estérel, j'en ai pris plein les yeux, et c'était que du bonheur. C'était pas forcément ce que j'avais imaginé au début, mais c'était magnifique. Ça, je peux pas le renier.
Bon, et pour autant, ça commence à siffler les tendons super tôt quand même, hein.
Ouais, mon tendon d'Achille à gauche a sifflé super tôt, troisième jour. Je me rappelle très bien, hein, le mercredi 18 mai, étape qui devait m'emmener jusqu'à Beauvais. Donc le matin, tout va bien. Le midi, pause. La pause, t'as vu à quoi ça ressemble, la pause de midi, hein. Je prends mon sachet lyophilisé, je prends mon
resto,
café, mon petit morceau de chocolat,
le restaurant,
ma sieste.
Alors là, franchement, le restaurant, 8 étoiles. Alors là, franchement, il y a les chefs qui viennent, etc. et tout. Non mais franchement, c'était bien organisé. Vous étiez vraiment tous les deux là. C'était bien rodé, votre histoire.
C'était bien rodé, bien organisé. Et du coup, je pars après ma petite sieste de 2 minutes 35. Et puis après 10 km sur une étape qui en faisait 30. Et bah, bim, douleur au tendon d'Achille. Alors, ce qui était bizarre, si tu veux, c'est que j'ai ressenti d'abord une douleur au-dessus de la chaussure. Tu sais, des fois, tu te dis, tiens, j'ai l'arrière de la chaussure qui frotte un peu. Ouais. Et j'avais l'impression que c'était une douleur comme ça. Donc, je me suis arrêté, j'ai remis la chaussure, et puis non, ça passait pas. Et puis, effectivement, c'est pas passé, à tel point que cette douleur-là, je l'ai quand même traînée pendant 3 semaines, quoi.
Ouais, tu l'as amené jusqu'en Italie, quoi.
Ouais, non, ça s'est arrêté un petit peu avant. Pour être totalement transparent, ça s'est arrêté à Salon de Provence quand j'ai été voir un kiné, Charles-Henri Mollet, qui a fait juste des miracles. Ça tombait un jour où on avait prévu une journée de pause. Donc j'ai été le voir le soir quand je suis arrivé, et le lendemain qui était une journée de pause. Donc 2 séances, 2 jours d'affilée, il a fait 10 miracles, et après il me restait qu'une semaine, je suis parti, j'avais plus qu'une douleur.
Bon, et l'étape où ça commençait à siffler, t'es arrivé à Beauvais quand même, parce que à Beauvais, ils t'attendaient, il y avait le grand, c'était le truc où ils t'attendaient tous, vous avez ouvert les lacs ou la mairie et tout, il y avait la fête nationale pour toi, quoi.
Ah ouais, non, Beauvais, franchement, c'était top. Alors, pour revenir un petit peu sur l'organisation, on en a déjà parlé sur les autres épisodes, mais j'ai contacté les mairies, j'ai essayé de contacter les journaux, etc. Et il y a eu très, très peu de répondants, sauf Beauvais, qui a été la première et la seule mairie à répondre à ma première série de mailing où j'annonçais que j'allais passer et qu'éventuellement, si c'était possible d'organiser quelque chose, de nous mettre en relation avec les clubs, etc., ce serait super sympa. Et pour le coup, Beauvais a super bien joué le jeu, même si c'était un week-end prolongé, parce que c'était là l'ascension, c'était le 18 mai. Il y avait quelques membres du club de course à pied de Beauvais qui étaient là, il y avait des représentants de la mairie, il y avait l'élu chargé des sports qui était là pour venir me serrer la main, échanger, me remettre un petit cadeau de la ville, tout ça au lac à Beauvais, au lac du plan d'eau du Canada, qui pour moi représente beaucoup parce que c'est là où j'ai fait le triathlon à quelques reprises, et comme je suis originaire presque de la région, parce que je suis rouennais, ça me rappelait pas mal de bons souvenirs qui remontent déjà, hein. Ça met un petit coup derrière la tête quand tu te dis je suis pas si jeune que ça, finalement.
Regarde pas ça, arrête. T'as jamais été aussi jeune.
C'est vrai, c'est ce que ma montre me dit. Mais Beauvais a vraiment fait les choses super bien. En plus, il a fait super beau. Et en plus, surprise ultime, ce que je ne savais pas, eh bien, mon épouse était montée me faire une surprise avec les enfants. Donc là, c'était vraiment la totale, quoi. Après 4 jours, que du bonheur.
Ouais, il fallait vraiment arriver à Beauvais, quoi. Il fallait pas les rater. C'est tendon qui commence à couiner pile sur l'étape qu'il faut pas rater à l'arrivée et tout. Quand même, hein.
Ouais, il fallait y arriver. En même temps, il fallait arriver à toutes les étapes. Et je te dis, je suis content parce que je suis arrivé jusqu'à la dernière, sans trop couiner, sans trop sourciller, sans trop souffrir. Et puis d'ailleurs, c'est un sujet avec mon coach qui pensait que je souffrirais plus.
Mais c'est ce qu'il m'a dit, en fait. Il m'a dit, mais il y a un jour, un moment, il m'a pas dit qu'il va claquer. Il m'a dit, il va prendre un coup de... Il m'a dit, là, il gambade, mais il va prendre un coup, un second, je sais pas comment on peut appeler ça, un coup derrière la tête. Là, il y aura un moment, un gros coup de fatigue ou je sais pas quoi. Qui est venu, ouais, t'as eu des bobos quand même et tout, faut pas déconner quand même sur cette distance là, quoi. Bon, on a parlé du tendon, mais après là, t'avais du strap, des tapes partout et tout là.
Bah, des tapes partout, non, j'avais juste des tapes au niveau des mollets. Alors quand je suis arrivé à Lyon, j'ai vu un kiné qui pour le coup a conseillé de taper partout sur les jambes pour décharger l'ensemble des jambes, ce qu'on a fait pendant une journée en fait. Parce qu'on avait plus de tape et on avait que du strap. Et l'avantage, je sais pas si tu connais la différence entre le tape et le strap.
Ah ben, il y en a qui t'épilaient pas l'autre, peut-être, non, je sais pas.
Non, même pas. Ça pourrait, mais non. De toute façon, je m'étais épilé avant de partir.
Ah oui, c'est vrai, pardon. J'ai vu ça. Excuse-moi, j'ai vu ça et tout.
Non, mais soyons transparents. Il y a que nous, de toute façon, personne nous écoute.
Non,
de toute
mais façon, on dit bonjour à ta sœur quand même. On sait jamais. Peut-être pas raconter trop de conneries quand même non plus. Coucou la sœur.
Salut. La différence entre le tape et le strap, le tape en fait c'est une bande élastique collante. Tu sais, c'est souvent des bandes qui sont de plusieurs couleurs. Ouais. Donc soit il y a des bandes de couleurs différentes, soit maintenant ils en ont même qui sont multicolores. Et ça colle relativement bien et surtout ça permet de décharger les muscles. Et les tendons, puisque ça accompagne le mouvement et ça évite que ça parte trop dans un sens ou justement que ça parte pas assez. Le strap, en revanche, tu sais, c'est ces espèces de pansements, c'est des bandes qui sont même pas élastiques, mais qui sont pleines de colle. Et la particularité du strap, c'est que ça colle partout, sauf là où ça doit coller. Et le jour où on a essayé de strapper les jambes à tous les endroits, donc au niveau des mollets et au niveau des cuisses, en fait, ça collait partout. À la fin de la soirée, j'en pouvais plus. J'avais les jambes qui collaient partout. Même pour dormir, je me collais au drap. Et au bout du deuxième jour, j'ai dit, okay, c'est bon. Hein. Je vais aller prendre une bonne douche. Je vais bien frotter fort. Je vais enlever toute la colle. Et puis, on va se contenter de trouver du tape et de taper au niveau des mollets et pas au niveau des cuisses et autres parce qu'en fait, ça devient juste désagréable, quoi.
Ouais.
Mais c'est vrai qu'il y a eu une autre douleur. Et justement, c'est aussi pour ça qu'on a essayé de maintenir les cuisses. C'était à la cuisse, à droite, justement. Et j'ai compris pourquoi quelques heures après. Je sais pas si je t'avais raconté.
Non, tu l'as pas raconté celle-là. Mais il faut le dire.
Faut le dire. Bon, écoute, quand je me suis blessé, enfin quand j'ai eu mal à mon tendon d'Achille à gauche, j'ai contacté Mathieu Catoun, qui est le kiné à Castres, qui m'a accompagné, et je lui ai expliqué mes douleurs. Et il m'a dit, tu peux essayer de faire une chose, vu que tu cours en ultra et que c'est du zéro drop, et que si t'as mal au tendon, il faut peut-être décharger un peu le tendon. Mmh. Essaye de te trouver des talonnettes. Comme ça, tu vas rajouter quelques millimètres, mais ça peut détendre un peu tes mollets. Au passage, j'étais revenu à une attaque talon plus qu'à une attaque avant-pied parce que là, c'était horrible. Ça me faisait véritablement souffrir. Donc, j'ai trouvé des talonnettes que j'ai glissées dans mes chaussures. Et puis, comme je suis les bons conseils de certaines personnes et notamment d'un influenceur running qui fait des podcasts et qui fait un super podcast, il s'appelle Kilomètre 42, je ne sais pas si tu connais. Jaquette jaune, tout ça.
Faut pas l'écouter, lui.
Bon,
casquette rouge, là, faut pas l'écouter. Il faut écouter Casquette Verte et Casquette Rouge. T'es trompé de mec, là.
Non, il faut écouter Casquette Verte quand il passe chez Casquette Rouge.
C'est un joueur, peut-être.
Non, mais tu dis souvent, et enfin, c'est une de tes recommandations, pas que de toi d'ailleurs, mais il est admis qu'il faut souvent changer de chaussure, surtout quand on fait des efforts répétitifs tous les jours, etc. Donc, ça m'est arrivé de changer de chaussure. Et donc, à chaque fois, je trimballais mes talonnettes d'une paire de chaussures à l'autre. Puis, il s'avère que le jour où j'ai eu mal à Lyon, le lendemain, quand je suis arrivé à l'étape d'après, ma sœur m'avait fait livrer des chaussures qu'elle m'a achetées. Donc, je vais pour transvaser mes talonnettes et je me rends compte que à gauche, j'avais une talonnette et à droite, j'en avais peur.
Ah mince.
Donc très certainement que la douleur venait, même si c'était que des talonnettes de 5 mm, du fait que dans un pied, t'avais 5 mm de plus et dans l'autre, t'en avais pas. Donc en fait, la faute, on va dire que c'est à moi que j'ai oublié de transvaser une des deux talonnettes.
Ouais. Bon, écoute, 5 mm quand même, ça paraît rien, mais c'est énorme.
C'est énorme, bah oui, c'est énorme.
Depuis toute ta vie que t'as essayé de grandir, t'as toujours eu ces deux jambes avec un équilibre qui était fait comme ça. Le simple fait de décaler de 5 mm, non mais c'est énorme le décalage que ça fait en fait dans le corps.
Mais oui, je sais, c'est énorme. C'est pour ça que quand je me suis rendu compte de ça, j'ai tout de suite compris d'où venait le problème et j'ai remis la talonnette à droite et la talonnette à gauche et dès le lendemain ça allait forcément beaucoup mieux. Mais sur le coup, oui, donc il y a eu le tendon qui était embêtant et il y a eu la cuisse. Le tendon ça a duré 3 semaines et la cuisse ça a duré 24 heures.
Bon, alors après le problème de confondre la crème solaire et les gels sur marathon, maintenant tu oublies les talonnettes. Non, mais ça, c'est que t'as pas l'habitude, parce que c'est vrai que tu sais, Sarkozy, compagnie, ils ont l'habitude pendant 40 ans, mais des talonnettes, etc. Toi, tu joues, tu dis bon, pas de talonnettes et tout, je fais avec ma taille. Bon, écoute, hein, c'est bien comme ça. Mais je comprends que ça puisse faire mal, parce que c'est vrai que le déséquilibre, je n'ai aucun doute pour comprendre qu'il y a eu un déséquilibre là-dessus. Donc, finalement, pas trop de blessures, t'as galopé. Alors, il faut le dire quand même, parce que je pense que je suis pas le seul à le dire, c'est que moi, j'ai pas réussi à te suivre. C'est-à-dire que sur les 23 bornes que j'ai couru avec toi, je regardais ma montre et je disais, mais c'est pas possible, le gars, il court à ma vitesse marathon. Mais pendant, il va courir 1600 bornes à cette vitesse-là. Et alors, ton coach, Paul, il disait, reste un peu en arrière, ça le force à ralentir, etc. Et au bout d'un moment, c'est moi qui finissais par marcher, j'arrivais plus à te suivre. Alors, au bout du 20e borne, etc. Mais je crois que je suis pas le seul à avoir été étonné par ta vitesse de course, parce que j'ai vu d'autres témoignages de gens qui disaient que tu galopais vite.
Écoute, il y en a eu d'autres. Je me suis efforcé quand même de me mettre à la hauteur, à la vitesse des gens qui m'accompagnaient, ne serait-ce que par respect. Bon, c'est vrai que je me sentais bien, alors j'y allais. Et puis, tu suivais, donc je continuais. Après, quand t'as commencé à marcher, je t'ai dit, écoute, on va marcher tous les deux. Hein. L'objectif, c'est pas d'aller dans le mur, ni pour toi, ni pour moi, surtout que toi, tu devais faire le retour en vélo. Mais non, mais t'es pas le seul. Écoute, en toute honnêteté et en toute modestie, vraiment, je me sentais bien. Je me sentais bien et c'est vraiment une des choses que je retire de ce défi, c'est que je me sentais beaucoup mieux que ce que j'appréhendais. Je pensais que ce serait dur dès le début. Et finalement, ça passait, c'est bien passé, quoi. Et je te dis, même le dernier jour où je pensais que je commencerais à être dans le dur, je voyais que pendant tout le défi, ça se passait bien, voire même de mieux en mieux. Et je me suis dit, quand j'ai vraiment commencé à arriver du côté de la Méditerranée, il va faire chaud, bord de mer, c'est découvert, ça va être encore plus difficile. Ben en fait, je sais pas, j'étais grisé, c'était encore mieux, encore plus facile. Alors oui, quand j'étais dans le massif de l'Estérel, j'ai beaucoup marché, j'ai beaucoup randonné, ben j'ai fait du trail, quoi. Ouais. Mais en même temps, quand tu prends 500 mètres de déplus et puis que t'as des chaussures de course sur bitume et que tu tapes du trail, du vrai trail assez technique et que c'est que de la pierre et du caillou, c'est pas facile d'envoyer. Mais dès que ça redescendait, ben ouais, j'étais bien.
Non, mais c'est vrai, et c'était impressionnant, parce que moi, quand j'ai regardé, moi, j'ai dit, mais c'est pas possible, il galope et tout, puis il commence à faire chaud, galoper de plus en plus vite, et tout, puis presque à un moment donné, et en plus, t'as failli m'engueuler, tu me dire, eh oh, on a attendu quand même un Macron, là.
non, je t'ai pas dit ça.
T'as dit, alors à un moment donné, quand même, à ma troisième pause pipi, t'as fini par me dire un truc, va peut-être falloir qu'on y aille quand même, hein.
Mais c'était pas pour toi, en fait. C'est parce que on avait prévu, souviens-toi, on avait prévu que tu fasses 16 bornes ce jour-là.
Ouais, c'était pour mon défi marathon Paul, de Paris.
C'est ça. Et Paul, il devait faire un ravito au 8e et un au 16e. Et au 16e, tu devais récupérer ton vélo et m'accompagner à côté de moi en vélo. Sauf que on a fait un premier ravito au 13 et au 13, il a dit ouais, je serai là au 16 ou au 17. Et en fait, il était là au 23. Donc en fait, c'était pas non, mais je te taquinais absolument pas. C'était juste que je me demandais quand est-ce que Paul allait arriver, parce que effectivement, on était attendu à Menton, à Mâcon. Et toi, je voyais que tu commençais à être un petit peu dans le dur, et ça m'énervait en fait ces changements de plan à la hussarde, et je me demandais quand est-ce qu'il allait être au ravito.
Alors que moi, tu sais, mentalement, je m'étais préparé. J'ai dit aujourd'hui, je fais 16, je fais pas plus que 16. C'est marqué sur mon plan. Mon défi, c'est 16 et tout.
Bon, écoute, juste un tout petit peu plus.
Ouais, non, mais c'est pas très grave et tout. Tu vois, après, j'ai roulé un petit peu en vélo et tout. Ça m'a permis de faire un beau week-end. Tu vois, mes 350 km dans le week-end, c'était cool. Non, mais franchement, c'était cool. Mais par contre, c'est vrai que t'as galopé. Il faut dire les choses, t'as galopé. Moi, j'étais aussi, je me suis dit, mais il y a des moments, la route, là. T'as vu des routes fréquentées quand même. T'as pris des trucs et tout. T'as bouffé du pot d'échappement quand même sur ce parcours, là.
Ouais, j'en ai bouffé. Et comme je te disais, et encore plus après qu'on se soit vu, mais en allant jusqu'à Montélimar, par exemple, en fait, quand j'étais seul le long de la N7, par exemple, ça me permettait vraiment de bien mieux me concentrer. Alors oui, c'est moins agréable que d'être sur les bords de Saône, sur une route bien lisse où il n'y a pas une seule bagnole et où il fait un petit peu frais parce que tu es à l'ombre des arbres. Mais par contre, au niveau concentration, tu fermes les écoutilles, tu regardes droit devant, et puis la seule chose que t'as à faire finalement, c'est éviter de dévier du parcours pour éviter de te taper une voiture qui arrive en sens inverse, quoi. Mais sinon, franchement, c'était mieux au niveau de la concentration. Alors oui, au niveau de l'expérience, c'était moins sexy que d'autres passages, comme par exemple dans le Morvan. Hein. C'est sûr que c'est beaucoup plus sympa de courir autour des vignes que de courir sur la N7. Mais en termes de concentration et en termes de de maintien de l'allure, c'est beaucoup plus simple. T'es sur une large bande d'arrêt d'urgence parce que la N7, il y a quand même un peu de place, hein, plus que sur certaines routes de campagne où tu tombes sur des tarés qui se décident à t'arrêter et à te taper dessus parce que t'es sur leur route.
Ça, faut que tu leur racontes. Ça, il y a des trucs à raconter.
On en parlera.
Alors attends, là on fait un peu de teasing. Alors dans quelques minutes, Hermano va vous raconter comment il s'est fait taper dessus sur une route, comment il s'est fait taper dessus dans la piscine. les aventures d'Hermano.
Et encore, c'était le défi,
et comment il a failli taper sur quelqu'un sorti de Mâcon. Alors là, franchement, non mais, hein, mais on garde ça en teasing, tech, après la page de la pub. Non mais, vraiment, non mais, enfin, après, je comprends la logique, mais franchement, le bout de route là, les 35 bornes, oui, 35 bornes, non, 25 bornes on a fait de route là.
Ouais, 27, je crois, l'après-midi.
Ouais, franchement, en plus, alors ce qui est drôle, c'est que maintenant qu'ils ont renuméroté les routes, les départementales, les nationales sont devenues des départementales sur lesquelles il y a 1000 camions à la minute qui passent. Donc, franchement, ça. Ouais, c'était pas champêtre, quoi.
Non, c'était pas champêtre. Mais l'avantage, comme tu dis, c'est qu'il y avait pas mal de camions. Et quand un gros camion passe juste à ta droite, parce que moi, je cours toujours à gauche pour voir les voitures qui arrivent en face, mmh. et ben, ça te fait un petit peu d'air. Donc, quand t'es en train de cramer au soleil, c'est agréable. Non, ça marche pas comme excuse.
Ouais, je sais pas, parce que quand même, je t'ai retrouvé sec comme une chips au kilomètre 12 avec mes deux bidons d'eau qui étaient sur le vélo. T'étais bien content de les retrouver. Donc, ma petite chips.
Ah, c'est clair.
Hein, franchement, donc, ouais. On peut dire. Et en plus, ce qui est drôle, et je dis comme une chips, mais tu sais quoi, parce que la veille, dans un village, j'étais passé, il y avait un livreur de chips. Tu sais, des gros camions de chips, là, une marque de chips française que je citerai pas. Il y avait un gros camion de chips. J'ai dit, j'hallucine ou j'hallucine pas? Donc, j'ai vraiment vu des camions de chips circuler sur les routes. Donc, ma petite chips là qui était toute brûlée là sur le bord de la route et tout là comme ça, franchement non, il faisait chaud quand même. Après sur la route il fait chaud et tout, c'est même s'il y a du vent, pas si frais que ça quoi.
Non, ça c'est l'inconvénient de courir sur des routes comme la Nationale 7 ou comme des grosses départementales, c'est que le bitume noir et quand il n'y a pas beaucoup d'ombre et que le soleil tape bien, ça renvoie énormément de chaleur. Donc je sais pas, en température extérieure, il faisait peut-être moins de 30, tu vois, 27, 28. Mmh. Par contre, avec la chaleur que renvoyait le bitume, et quand on roule, que ce soit en voiture ou en vélo, on sent un peu la chaleur, mais pas tant que ça. Par contre, quand on court, on est vraiment au ras du bitume. Et on reprend toute la chaleur dans la tronche, et il n'y a pas de vent en fait, il n'y a vraiment pas de vent, donc là ça chauffe. Je me souviens que quand on est arrivé à Belleville en Beaujolais, tous les deux, le soir, je te disais, j'ai pris un petit coup de chaud quand même.
Oui, c'est sûr, je me rappelle bien que tu as pris un coup de chaud, je t'ai attendu sur le bord avec la bouteille d'eau, tu m'as tout vidé. non, parce qu'on a fait ravitaillement au bout de 10 km, déjà tu étais sec, tu n'avais plus d'eau, ouais. Et après on a dit, tiens, je mets les deux bidons d'eau sur le vélo. Et quoi, 5-6 km après, hein, pas très longtemps après, t'avais à nouveau plus d'eau. Donc ce qui, mais après, il faut dire, et je crois que j'ai vu des trucs, hein, tu te mets, il fait plus de 50 degrés quand t'es sur la route, hein, quand il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'ombre, ouais. Etc. C'est aussi, par exemple, ce qui fait que des villes sont beaucoup plus mortelles, notamment comme Paris où il n'y a pas d'arbres, où il n'y a pas assez d'arbres, etc. Ce qui fait que la chaleur et tout, ça remonte et il fait super chaud. Donc c'est logique, hein. Voilà. Bon, à Belleville, quand même, et t'as dit Beauvais, mais Belleville, l'accueil était sympa.
Non, Belleville, l'accueil était sympa. Alors, il y a eu beaucoup de villes où l'accueil était sympa. Mmh. C'est juste que je voulais faire cette différence entre Beauvais et les autres villes. Beauvais a répondu tout de suite à ma sollicitation. Pour les autres villes, il a fallu renvoyer des mails, il a fallu les appeler, il a fallu insister pour qu'ils mettent des choses en place. Mais c'est vrai qu'à Belleville, l'accueil était sympa. Enfin, on est arrivé, il y avait les élus qui nous ont rejoints à la piscine. Mais quand on arrivait à la piscine, il y avait le président du club des Tritons qui était là. D'ailleurs, sacré belle bête, hein, le gars.
Champion du monde.
Et quand on nageait à côté de lui, on menait pas large. Hein.
Champion du monde, le gars, hein, franchement. Et quand tu vois la séance, ouais. Et qu'il t'annonce qu'il fait 20 x 800, tu te dis ouais, attends. tout seul.
T'avais noté son nom ? Est-ce que t'avais noté son nom ?
Non.
Parce que moi, je l'ai retrouvé. C'est Fabien Czachor. Ça s'écrit Czachor.
D'accord. Et t'as regardé son palmarès ?
Ouais, non, j'ai regardé de loin parce que j'ai pas envie de souffrir, mais bon, je retiens quand même que il y a 8 ans, donc quand il avait 40 ans, il était champion du monde master sur 800 mètres.
Ouais, voilà.
Champion du monde master. Ouais. Donc, il y a 8 ans, le mec était l'homme le plus rapide du monde dans sa catégorie, c'est-à-dire pas en élite, parce que les élites, ceux qui vont au JO, ils s'arrêtent de nager à 30, 35 ans. Lui, à 40 piges, c'était le meilleur du monde sur 800 mètres. Enfin, rendez-vous compte. En natation, pas en course à pied.
Et en plus, c'est un mec qui fait 4 nages. D'après ce que j'ai compris, et alors il brassait un volume d'eau quand il nageait le papillon. Waouh,
impressionnant,
hallucinant, le volume d'eau qu'il déplaçait. Franchement, ça avait des vagues. Moi, j'aurais pu prendre mon petit surf et tout et faire du surf avec les vagues qu'il générait. C'était non, mais c'est vrai que c'était hallucinant. Là, on voit vraiment la puissance qu'il avait et tout. Et d'ailleurs, c'était drôle parce que quand tu regardes, je sais plus qui c'est qui m'a dit. Ça m'a dit. Ouais, alors techniquement, c'était pas le plus impressionnant, mais alors dans la tête, à quel point il est en balance, il avance, et musculairement, à quel point il est puissant. Et c'est vrai que c'était vraiment très impressionnant. Et moi, en plus, j'ai commencé à me choper une crampe. Alors, je vous ai regardé nager un petit peu comme ça, tranquillement. J'ai fait 700 mètres, moi, tu sais, je me suis dit, oh là là là, si seulement il pouvait me traîner là et tout, s'il me donnait son astuce. Mais j'ai peur que son astuce, ça soit de me dire, bah, fais 20 x 800, tu verras, ça ira mieux.
C'est ça,
fais du volume, fais du volume, fais du volume. Et j'ai pas trop envie. Surtout après avoir fait couru là sur ta derrière toi là, comme ton petit lapin que t'étais là et tout. Bref.
Et c'est vrai que quand t'étais derrière lui dans son tirant d'eau, c'était impressionnant quoi. Moi je me suis mis pas longtemps dans ses pieds parce qu'il bourrinait, mais quand il faisait des plaquettes devant moi en crawl, moi j'étais 3 mètres derrière et je sentais encore la puissance qu'il mettait dans l'eau pour la déplacer. Ouais. C'était un truc de dingue. Et pourtant quand tu le vois, quand il est sorti de l'eau pour nous accueillir, le mec paye pas de mine quoi, tu sais, il est un petit peu grassouillet, tu te dis.
C'est toi qui l'as dit, un petit peu grassouillet. Non, c'est vrai. Et là, je te l'accorde, c'est-à-dire que si tu le croises comme ça, tu vois le truc, tu dis pas que c'est un mec qui a été champion du monde niveau physique. en apparence, il avait un petit peu grassouillé. C'est vrai, t'as raison. Mais c'est vrai que par contre, en puissance, c'était juste hallucinant.
Impressionnant.
Ah, vraiment, ouais. Vraiment hallucinant. Et c'est vrai que sur le coup, il paye pas de mine. Mais alors, une fois qu'il s'est mis à accélérer et à balancer de l'eau, là, c'était vraiment impressionnant. Même l'entraîneur, là, le jeune là, qui était là, il l'a regardé. Je crois qu'il osait même plus se mettre à l'eau tellement au bout d'un moment. Il le regardait faire. Il dit, mais qu'est-ce qu'il fait et tout. Il dit, moi j'étais chez l'ostéo hier et tout, faut pas que je suis un peu blessé, j'ai pas le droit de nager aujourd'hui et tout. Tu sais, était un peu comme ça, tu sais, un peu de se dire, putain le président et tout. Mais en plus, un gros club, hein, vraiment un très gros club, ouais. De natation et tout.
1100 adhérents au club, ouais. Pour une commune de 46 000 habitants. Donc ouais. C'est juste énorme, quoi. Ouais. C'est un 46e de la population qui est inscrite au club de natation, c'est un truc de dingue.
Et je sais pas si t'as vu, mais moi le lendemain, quand je suis parti en vélo, il y avait des pistes cyclables. Ils ont des voies vertes et tout, qui étaient vraiment hallucinantes, le nombre d'équipements qu'ils avaient. Ouais. On avait parlé avec le maire des équipements. Faut dire que Belleville-en-Beaujolais, cette année, accueille le Tour de France. Hein. Ça fait partie d'une ville d'arrivée. Tu fais une belle photo devant le truc d'arrivée en levant les bras, etc., monsieur. Et après, moi, quand je suis reparti, et après, je suis parti Beaujolais et tout, il y avait une belle voie verte, etc., et tout. J'ai suivi un petit papier en vélo et tout sur les voies vertes qui amenaient après jusque dans le Beaujolais. Et en fait, il y avait des équipements et tout, mais vraiment, quand il avait dit on est une ville sportive, on mise beaucoup sur le sport, sur les équipements, il déconnait pas, hein, le maire. Hein, il était vraiment sérieux dans son histoire. Et c'est vrai que déjà, avoir une piscine extérieure et intérieure de ces surfaces-là, de 50 mètres et tout, dans un tel club et tout, c'est remarquable. Moi, je trouve que c'est vraiment remarquable, ouais. Et que c'était cool que tu aies pu les rencontrer. Ils ont dansé, ils ont sorti un petit peu, quoi, la petite truc d'apéro. Bah, jus de fruits, quoi.
Ouais. Non, c'était sympa. Et il y en a une autre, hein, des accueils comme ça. Globalement, les communes où on a été accueillis, elles étaient super sympas. Mmh. Et le point d'orgue, c'était quand même à Nice. Ça n'a pas été à Menton à l'arrivée, mais à Nice, là, c'était top aussi, quoi.
Ah ouais.
Franchement, j'ai été rejoint par... j'ai rejoint plutôt à 4-5 km de l'arrivée deux présidents des deux clubs de triathlon de la région, mmh. Avec certains de leurs adhérents. Et on a fait toute la promenade des Anglais ensemble et l'un des présidents d'ailleurs du Nissa Team Triathlon, à chaque fois qu'on croisait quelqu'un sur la promenade, que ce soit quelqu'un qui allait dans le même sens que nous ou quelqu'un qui arrivait en face, il les arrêtait, hey, venez, c'est pour un défi, le mec il est venu de Dunkerque en courant. Ce qui fait que, alors il y a des gens qui se demandaient, mais c'est qui ce taré, c'est qui cet hurluberlu qui nous appelle, qui nous dit de venir, mais il y en a d'autres qui sont venus. Donc on a commencé à 4, on a fini à une petite quinzaine pour arriver jusqu'à l'accueil qui était réalisé par des élus de la ville de Nice, mais ils avaient convoqué je sais pas combien de journaux. Enfin, c'était cool, franchement c'était cool.
Ouais, et tu vois, tu aurais fait ça dans le sens inverse. Le mec à Nice, il commence à faire ça, et ben tu devenais Forrest Gump à l'arrivée parce que vous partiez à 4 au début, 15, 20, 50, 100 et 10 000 à Dunkerque.
C'est ça. Écoute, pourquoi pas.
Pourquoi pas? Non, mais le gars, ça y est, il est parti. Et alors, en plus, il y a un truc dans le sud, c'est que t'étais la star de BFM TV. Alors, je savais pas qu'il y avait autant de BFM TV local. Hein. Alors, franchement, BFM TV Nice, Monaco, Menton,
Toulon.
Ouais. Il y a combien des BFM TV là-bas?
Parce que... Je sais pas. Écoute, je sais pas. Moi, j'ai juste vu les reportages qui étaient passés sur BFM Toulon, avec le départ du Castellet. C'était sympa, tu sais, Castellet, petit circuit moto, voiture, tout ça. Et puis BFM Nice. Et d'ailleurs, j'aurais quelques anecdotes à te raconter plutôt en off sur les interviews. C'était sympa.
Ah bon? Ah, punaise. Je garde ça en stock. Non, mais attends, chacun ses privilèges, hein. Franchement.
Écoute.
Non, mais oh, franchement, vous pouvez pas tout savoir comme ça, hein, c'est pas possible. Non, mais si, t'as eu BFM Monaco, non? À Monaco, c'est quoi? C'est un journal?
Non, j'ai eu Monaco Info. C'est la chaîne info du gouvernement de Monaco. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça très marrant parce que t'as le journaliste au journal de 20h de Monaco qui annonce le prochain reportage et donc qui parle d'un gars qui traverse la France en courant en un mois à raison de un demi-marathon par semaine.
Ah oui.
Donc un demi-marathon par semaine en un mois. Alors il avait peut-être en tête que Monaco c'est pas très grand comme état, mais non, c'est un marathon et demi par jour pendant un mois et pas un demi-marathon par semaine.
Bon, écoute, et tu peux dire que t'es passé aux 20h. Hein. Franchement, t'es passé aux 20h, déjà, faut le dire. T'as eu BFM, etc. T'as eu France 3 aussi.
France 3 Nord, ouais. France 3 Nord, le premier jour. Mm. Alors, c'était que local, c'est-à-dire que c'était que dans le nord de la France. Mais oui, je suis passé au... Alors, c'est, sur France 3, c'est pas le 20h, mais c'est le 19-20. Je suis passé au 19-20 du nord.
Ouais, mais après, en général, ça tourne. Jour, après, en général, ça tourne. Ils remettent sur d'autres trucs, etc. Enfin, tu finis par être sur différents sites et tout. C'est cool. Et puis, alors, je dois dire un truc. C'est que la photo, la dernière photo là, de... Je sais pas quelle journée c'est la fête. En famille, là, elle est géniale, cette photo-là, quoi.
Ouais. Elle est géniale. Là, c'était un vrai photographe. Et donc, c'est le fameux journaliste qui me courait après depuis Monaco. Donc, c'est un photographe journaliste et qui a vraiment fait des vraies belles photos avec son vrai appareil photo, avec son vrai téléobjectif. Il en a fait plusieurs. Et franchement, elle était top parce que c'était le joli point d'orgue du défi. À Menton, je m'attendais à ce qu'il y ait un petit comité d'accueil. Ils avaient dit qu'ils feraient un truc. Alors, honnêtement, c'est pas moi qui ai géré tout ça, c'est mon épouse. Et puis, je voulais de toute façon pas gérer sur Menton. En fait, tu vois, je voulais que ça reste un peu une surprise. Bon, en fait, il y avait rien. Et puis déjà, je suis arrivé avec une heure et demie d'avance sur le planning, mais de toute façon, il y avait rien. Il y a deux élus, enfin, il y a un élu et son assistante qui sont venus. Bravo, merci, merci. Allez, ciao. Bon, bah, ciao. Mais par contre, il y avait le photographe journaliste Denis Matin et sa collègue qui a écrit l'article, Denis Matin, qui, par ailleurs, avait déjà fait de la veille sur ce qui se passait autour de Nice et Menton et avait déjà écrit un papier avant même qu'on les contacte. Et après, quand Tina a contacté les journalistes, et notamment Nice Matin, elle a dit « Bah oui, moi j'ai déjà fait un papier dessus, je vais aller voir le monsieur et je vais faire un plus gros papier. » Et cette photo était géniale parce que moi, j'avais demandé à mon épouse, je lui ai dit, bah, finalement, si tu viens, parce qu'à la base, elle ne devait pas venir, mais je lui ai dit, si tu viens, et en plus avec les enfants, est-ce que tu peux me ramener un drapeau français, un drapeau italien et un drapeau du Luxembourg? Comme ça, ça fait un peu la liaison entre mon histoire et mes origines. Et puis, j'ai quand même traversé la France pour aller jusqu'en Italie. Et donc, ils ont trouvé ces drapeaux-là qui sont de très grands drapeaux. Ils ont cousu vite fait les trois drapeaux ensemble. Et puis, c'était génial parce que quand ils sont arrivés, on s'est tous mis en ligne. On a pris les drapeaux entre les mains et puis franchement j'ai trouvé l'image au-delà de la photo mais l'image en elle-même de finir avec la famille avec ce drapeau-là au-dessus de la tête toute la famille tous les six c'était génial j'ai adoré.
Ouais, mais moi c'est ce que je me suis dit en fait quand j'ai vu cette photo, j'ai dit le souvenir que ça de cette photo là va rester là sur le tout le temps quoi. C'est elle est magnifique.
Elle est magnifique. Franchement, j'ai adoré.
C'est un cours à 1600 bancs quand même pour avoir cette photo là à la fin. Ça...
Non, 1370.
Ouais, pardon, excuse-moi. Moi j'étais resté dans 1600 km. Pourquoi j'étais resté sur 1600 km?
Parce qu'à la base, quand on avait commencé à faire le tracé, quand j'ai commencé à faire le tracé original, on n'était pas loin des 1600 pour moi. Et puis je sais pas, il s'avère que c'était plus court que prévu ou des tracés étaient. Bref, voilà. Je sais pas comment j'ai fait pour économiser presque 300 bornes, mais au final, ça fait 1370.
Et tu sais, je viens de recevoir un SMS des empereurs romains. Ils disent il est pas mal son tracé Agrippa là. On va peut-être vous pouvez pas nous donner la trace là pour qu'on la refasse parce que finalement c'était vachement plus court. On aurait économisé 10 jours nous sur notre trajet.
Ouais, ils en auraient peut-être un peu souffert, notamment dans le Morvan et dans le massif de l'Estérel.
Ouais.
Mais mais c'était pas mal. Pour la petite anecdote, l'histoire du massif de l'Estérel, Paul m'a dit je te fais passer par le massif de l'Estérel parce que c'est plus court. Mais en fait Paul n'étant pas un trailer, il a pas en tête le ratio 100 mètres de dénivelé qu'il soit positif ou négatif quand c'est du gros dénivelé égale 1 km. Donc en gros, si tu fais 30 bornes avec 1000 mètres de D+, ça t'équivaut à 40 bornes. Et par les bords de mer, il y avait 34 km. Donc il m'a dit 30 bornes par le massif de l'Estérel, c'est plus court, donc tu passes par le massif. Ouais. À choisir sur la dureté de l'effort, j'aurais préféré le bord de mer. Mais par contre, à choisir pour le kiff, la beauté des paysages, l'introspection, parce que là, j'étais vraiment tout seul de chez tout seul. Le massif de l'Estérel était sympa.
Et tu as eu de la chance d'ailleurs, parce que tu aurais pu ne pas pouvoir le traverser, ce massif, avec les s'il y a eu des alertes incendies, des trucs comme ça. Non, il n'est pas fermé, pardon.
Alors, il est fermé la nuit, très bizarrement, de 21h à 6h du matin, t'as pas le droit d'y aller.
D'accord.
Mais bon, voilà. A priori, il n'est pas fermé pour risque d'incendie. Par contre, il peut être fermé s'il y a des grosses pluies et autres. Là, il faisait juste un temps magnifique. Les pluies, c'était 2 jours avant et 2 jours après. Donc, j'ai eu du bol.
Mais et c'est ce que j'allais te dire, j'ai l'impression quand même que t'as eu du bol sur le temps, sur la météo.
Ah, j'ai vraiment eu du bol. J'ai eu un crachin normand ou du nord le premier jour,
normal,
le 15 mai quand je suis parti de Bredune. Et après, j'ai eu un petit orage avant la veille d'arriver à Montélimar et le lendemain quand j'allais sur Avignon. Là, sur Avignon, j'ai pris une bonne grosse drache sur la tronche. J'avais les éclairs qui étaient pas très loin. Je t'avoue que j'en menais pas large. J'ai quand même pas mal avancé, hein, parce que sous l'orage, je me sentais bien, j'étais à fond, je me suis fait 15 bornes à 3,50 au kilo. Mais après, j'ai été bloqué. Parce qu'en fait, le tracé que Paul avait fait me faisait passer sur le pont au-dessus du Rhône, qui est la passerelle de la Via Agrippa qui passe au-dessus du Rhône, sauf que la passerelle était en travaux.
Ah mince.
donc j'étais là, je suis arrivé à 3,50 devant la passerelle fermée avec des bulldozers partout. Enfin, tu peux juste pas passer, quoi. Et là, en plus, je venais de prendre l'orage de ma vie. J'essaie de sortir le téléphone pour regarder ce que je vais pouvoir contourner comme parcours. Ben en fait, le téléphone était trempé, mes doigts étaient trempés. J'arrivais pas à appuyer sur l'écran, donc j'ai commencé à essayer de faire demi-tour. Une belle galère. D'arriver à Avignon, c'était difficile.
Et t'as fait comment alors pour passer? T'as trouvé un autre passage?
Vas-y, je vais te raconter l'anecdote qui va te faire bien rire. J'ai pris comme... Alors, il s'était arrêté de pleuvoir, mais j'étais trempé de partout. J'ai juste pris le téléphone, je l'ai mis en hauteur, j'ai commencé à courir pour faire sécher l'écran. Après, j'ai pu manipuler mon téléphone. Et là, j'ai regardé, Google Maps me donnait un petit détour de 20 bornes. Et Paul m'appelait et il a insisté pour que, au bout d'un moment, je monte dans le camion et qu'on finisse les quelques kilomètres qui restaient. Donc, en fait, je suis même pas arrivé à Avignon en courant. Il restait, normalement, quand je traversais la passerelle, il aurait dû me rester 7 km. J'ai refait 4 km dans l'autre sens pour contourner. Puis après, on est remonté. Après, je suis monté dans le van et on a fini en van.
Est-ce que tu es allé danser sur le pont?
Non, bah, tu sais que le pont d'Avignon, en fait, il n'est pas fini. Enfin, il n'est pas fini. Il était fini et il s'est effondré. Ouais, donc, tu peux pas traverser le Rhône sur le pont d'Avignon.
Non, mais tu aurais pu danser sur le début.
Ouais, mais non, parce qu'en fait, une fois arrivé, il s'est remis à pleuvoir, donc j'ai pas été danser sur le pont.
Et t'as pas traversé, t'aurais pu traverser la partie, t'as pas nagé dans le Rhône, tu peux pas nager dans le Rhône.
Non, alors écoute, à Avignon, une amie m'a offert un hébergement, une amie que tu connais certainement, qui s'appelle Marie-Cécile Drécourt, qui fait partie des podcast makers, qui produit le podcast Esperluette, et elle a une amie qui a une péniche, qui est la péniche Altea. Qui est une péniche sur le Rhône, dans laquelle elle habite, mais elle organise aussi des séminaires, des événements et autres. Et puis, elle a une chambre qu'elle a transformée en chambre d'hôte sur cette péniche. Et donc, Marie-Cécile m'a offert la nuit dans cette péniche. Et en fait, quand tu es dans la péniche, dans ta chambre d'hôte, et bah, du hublot, tu vois très, très bien le Rhône parce que tu es quasiment à la hauteur du Rhône, tu vois, sur le hublot. Et là, j'ai vu le Rhône et là, je peux t'assurer que j'ai dit non, j'irai pas nager là. Quand j'ai vu la couleur et les petites choses qui étaient en suspension, je me suis dit non, là c'est mort. Le Rhône à Avignon, j'irai pas.
Ouais, bon écoute, après Avignon, en plus t'as quoi? T'as des centrales nucléaires pas très loin et tout? Non, c'est tout.
Ouais, ouais.
T'as beaucoup de bateaux.
Non, mais en plus tu peux pas nager dans le Rhône, c'est strictement interdit. Donc ouais. Après, peut-être que si t'as une autorisation, enfin il y en a qui l'ont fait. Il y en a qui ont eu des autorisations, notamment je crois que c'est le fils de Anne Hidalgo, qui a remonté la Seine à la nage, de la source jusqu'à l'embouchure au Havre. Bon, lui, il a pu avoir des autorisations. Il y a Mathieu Vitefaute aussi qui l'a fait pour suivre le tracé d'un mégot de cigarette. Mais voilà, le Rhône, c'est un peu plus compliqué pour avoir les autorisations. Et honnêtement, j'avais tellement de choses à faire, à régler avant le départ, que j'ai préféré concentrer mon énergie sur autre chose.
Le fils d'Anne Hidalgo, tiens, je sais pas que le fils d'Anne Hidalgo ait fait ça dans la Seine, mais bah, écoute, bah, comme quoi il a...
Sacré nageur, hein. Ouais. Il a remonté toute la Seine. Hein. Ouais.
De sa source en Bourgogne à son estuaire en Normandie, ouais, dis donc. Bah, comme quoi, tu vois, et c'est drôle, hein, là, il a... Jacques Chirac disait qu'on nagerait dans la, qu'on pourrait se baigner dans la Seine, et bah finalement c'est le fils d'Anne Hidalgo qui l'a prouvé. Tu vois comme quoi c'est...
Ouais, mais je pense que la Seine est plus propre que le Rhône, quand même.
Ouais, mais probablement, tu sais. Enfin après, je crois qu'ils font, il y a des selon les endroits, parce que j'en ai parlé avec le maire de Vichy, tu sais, on parlait de l'Allier aussi, où ils font des mesures, où ils font exprès de voir, d'essayer de les rendre plus propres, etc. Mais je pense que le Rhône, c'est tellement en fait une autoroute fluviale avec tellement d'usines aussi tout autour, etc., que Et puis les centrales nucléaires n'ont pas tout fermé. Enfin, avoir la gestion pour que ça soit propre, à mon avis, c'est un casse-tête économique aussi qui doit être vraiment très important. La scène, je sais pas, je crois qu'il y a des trucs de conservation aussi qui ont été prévus. Enfin, il y a des trucs comme ça, quoi.
Ouais, non, mais la Seine est, je pense, plus propre, et puis il n'y a pas de centrales nucléaires sur la Seine. Celles qui sont dans le nord, elles sont sur la Manche, donc elles sont pas... tu vois, déjà, il n'y a pas de centrales nucléaires. Bon, après, il paraît que l'eau qui rejette, elle est propre, mais il y a beaucoup moins d'industrie sur la Seine que sur le Rhône, et puis a priori, c'est plus propre. Bah, en tout cas, pendant les JO, ce sera plus propre.
Tu mets un pied dedans, ça se trouve, tu sors qu'avec 5 avec 6 orteils de plus, tac, et pour nager, pouf, tu sors avec 6 orteils.
C'est plus facile. Tac, mais j'y ai déjà nagé, hein, comme d'autres, dans la Seine, hein, pour le triathlon de Paris. On nage dans la Seine et je suis jamais ressorti avec des orteils en plus ou en moins.
Ouais, alors que dans le Rhône, tu sais pas. Bah, c'est pour ça que ça.
Je sais pas.
Écoute, ce sera pour Agrippa 2028, peut-être.
Ouais, on verra. Attends, je vais aller chercher Tina, je vais lui demander ce qu'elle en pense.
Non, mais bah, pas tout de suite, peut-être. On va te réserver un été plutôt cool là-dessus. Alors, attends, parce que n'empêche qu'il y a quand même une question que tout le monde se pose. Parce que moi, j'en ai vu un peu les coulisses. Mais est-ce que tu as calculé le nombre de calories, ou est-ce que ta montre t'a dit le nombre de calories que tu as grillé?
J'ai même pas regardé parce que la montre, j'y crois pas trop. Et non, j'ai pas calculé. J'ai même pas calculé le nombre de calories que j'ai ingéré parce qu'honnêtement, je concentrais mon temps à des choses qui étaient vraiment nécessaires à la réussite du projet. Et même là, tu vois, 3 semaines après, je te disais, je suis extrêmement fatigué, j'ai du mal à reprendre pied avec la vie normale, mais j'ai aussi du mal à ressortir tout un tas d'informations, de données relatives au défi. J'aimerais trier toutes les photos que j'ai faites, que d'autres ont faites, ressortir un petit peu le meilleur, écrire des choses, etc. Et regarder les stats, et c'est des choses que j'arrive pas à me poser pour faire.
Ouais, parce que pour écrire ton bouquin sur l'aventure, il va bien falloir la ressortir à un moment donné, ces infos-là.
C'est ça, mais... J'attends d'être guidé par Casquette Rouge, donc on en reparlera en off.
Bon, là. Non, parce qu'il y a un truc quand même, c'est que pour courir aussi longtemps, pour faire un marathon et demi par jour pendant un mois, hein, Télé Monaco, bonjour, il faut manger quand même. C'est-à-dire, il faut nourrir. Alors, moi, je l'ai vu parce que, en plus, ravitaillement et tout, avec le van et tout, tu avais ta petite collation à chaque fois, la petite pause, etc. Ouais. Et tout. Mais franchement, les gens sont en train de se dire, ils disent, mais qu'est-ce qu'il a mangé? Mais comment il fait? Alors, moi, je te vois, j'ai pas l'impression que tu sois beaucoup plus maigre.
Tina m'a dit que j'avais pas mal minci.
Un peu du visage.
J'étais affiné,
ouais,
en fait.
Ouais, affiné du
visage. Un peu du visage,
trouve,
et des jambes aussi, a priori. Bon, j'ai perdu aussi la petite bouée que j'avais sur le bide et les poignées d'amour. Mais ça, tu le vois moins parce que tu m'as moins vu. Quoique, à Belleville, on a nagé quand même en maillot de bain. Hein, donc,
j'ai une photo. Attends, je regarde tes poignées d'amour. J'ai une photo. Je regarde tout de suite. Vas-y, continue à parler. Je m'occupe de
Vas-y.
Ça.
Non, mais au niveau de la nourriture, j'ai ajusté un peu les plans que j'avais prévus. Tu sais, je t'en avais parlé. Moi, je voulais essayer d'être le plus naturel possible, et ce qui voulait dire pour moi pas trop de plats préparés, pas de choses transformées, pas de bars, pas de gel, etc. Bon, au final, j'ai quand même pris des bars, et si ça te dérange pas, je veux bien citer la marque. De toute façon, on n'est pas sur une radio, donc on dit ce qu'on veut. Hein. Non, j'ai pas le droit.
Si, sur Kilomètre 42, tu peux. Il y a d'autres podcasts, tu pourrais pas, mais Kilomètre 42, vas-y.
Non, j'ai été très bien conseillé pour acheter des bars NAC, NAAK, et non seulement en termes de goût, c'est passé, en termes de digestion, c'est très très bien passé, et en termes de composition, je suis très content parce que c'est des bars qui sont bio, naturels, qui coûtent un bras, mais qui correspondaient à peu près à ce que je voulais en termes d'alimentation sportive.
Ouais, et d'ailleurs, je vais dire un truc, parce que ton entraîneur m'en avait glissé une dans mon sac pour que quand je suis reparti, je l'ai goûté en rentrant largement, et en fait j'ai trouvé que je l'ai prise en goûter un jour et j'ai trouvé super bonne.
Ouais,
je dois le dire,
elle était
vraiment très bonne, une bonne texture, etc. J'ai trouvé bonne, et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui en parlent de NAC, etc., en disant que c'est bon et tout. Après, moi j'étais surpris, j'ai trouvé que le goût était quand même très marqué, tu vois, sur je sais plus à quoi était, chocolat et tout.
Ouais,
elles ont un goût très marqué, quoi. Peut-être que certaines personnes, si t'en prends toute la journée, Moi, tu vois, je me suis dit, si j'en ai pris deux, tu vois, dans une journée, sur un trail ou un truc comme ça, j'aurais été écœuré, je pense. Mais par contre, elle a très bon goût. Je suis d'accord.
Ouais. Et l'autre avantage qu'elles ont, ces barres-là, c'est qu'elles ne fondent pas, en fait. Et donc, moi, j'en avais toujours une dans mon gilet d'hydratation. Donc, entre les chaleurs qu'il faisait et en plus le fait que c'était contre mon corps et donc avec la chaleur que je dégageais, elle ne fondait pas. Et donc ça, franchement, c'est aussi un super avantage parce que quand tu pars pour un petit 10 km et qu'il ne fait pas très chaud, tu peux prendre une barre au chocolat si c'est le genre de goût que tu aimes bien. Par contre, si tu pars pour un 20-30 bornes qui fait 40 degrés dehors, ta barre, tu finis par la pousser comme un vieux tube de dentifrice qui est en train de finir parce que c'est que du chocolat tout fondu quoi. Non, franchement, avec les NAC j'étais bien. J'avais aussi acheté de la nourriture lyophilisée chez Lyophilis, qui est une plateforme de vente de produits lyophilisés. Et là aussi, alors j'ai été surpris avec certains goûts, mais sinon globalement c'était assez sympa. J'avais pris la marque Real Tamut, je crois, qui est une marque norvégienne, Kukudian, et franchement ça passe super bien. Et puis en fait c'est super pratique parce que tu chauffes 300 ml d'eau, donc 300 ml d'eau en gros c'est un verre, hein, un grand verre d'eau, que ce soit au micro-ondes ou à la bouilloire. Et puis on ouvre le sachet, on met ça dans le sachet, on n'a même pas besoin de mettre dans un autre récipient, on met juste dans le sachet, on referme le sachet avec le petit zip, on laisse mijoter pendant 8-10 minutes, et puis après ça se mange à la cuillère, à la fourchette, voilà. Bon, alors après faut pas trop regarder la texture parce qu'effectivement c'est pas forcément aussi sympa qu'un joli plat dans une belle assiette, mais par contre en termes de goût et surtout en termes de nutriments et d'apport nutritif, ça fait le job quoi. Et puis comme tu le disais, à chaque ravito Paul me sortait des fruits secs, des barres, des tuques, des biscuits apéritifs, et en gros je mangeais ce dont j'avais envie sur le moment. En me forçant à manger.
Je vais faire une remarque quand même pour les gens qui vont regarder des NAC, faites attention, il y en a qui ont de la caféine dedans. Donc si t'es un peu sensible à la caféine, tu prends ça en fin de journée, c'est à tester, ça fait partie des trucs à tester. Je le dis parce que c'était une discussion que j'ai eue il y a pas longtemps sur le fait qu'il y a plein de fabricants qui mettent de la caféine maintenant dans les bars et tout. Et si t'es un peu sensible et que tu les prends un peu en fin de journée, voilà, bah, bref.
Bah, normalement, dans celle que t'as goûté, il y avait de la caféine parce que moi, j'avais pris goût mocha et café. Et donc, je crois que c'est les deux types de bars qui sont... où ils rajoutent de la caféine. Alors c'est pas énorme, hein, c'est pas non plus un café, c'est un peu de caféine, et en fait ça passait super bien, franchement.
Ouais, de toute façon toi t'étais fatigué à la fin de ta journée, tu t'es...
Ah oui, pour le coup, à la fin de mes journées, j'étais bien fatigué. Et comme j'avais pas forcément un sommeil super récupérateur sur plusieurs nuits, je dormais bien. Enfin, je tombais bien.
Tu tombais bien. Mais franchement, est-ce que t'as assez mangé pendant toute ton aventure?
Ouais, j'ai assez mangé. Ouais, je me forçais à manger vraiment à chaque ravito. Quand Paul était là, il ouvrait le van, même si j'avais pas faim, je me forçais à manger. À côté de ça, j'avais acheté aussi des pastilles d'électrolytes. Alors l'avantage des pastilles, c'est qu'en gros, tu mets ça dans une gourde ou tu mets ça dans une bouteille, tu mets la pastille dedans, puis ça se dilue en une ou deux minutes. Comme ça, pendant que tu manges, la pastille elle se dilue, puis après tu mets ça dans tes gourdes. Et je pense que ça aidait bien aussi. C'était un goût relativement neutre. C'était mangue ou citron. Ça passait assez bien et ça permettait aussi d'ouvrir un peu l'appétit sur le reste. Mais franchement, je me forçais à manger, alors pas trop non plus, et je pense que j'ai assez mangé. C'était plus difficile en fait le soir, parce que souvent le soir, soit on était invité dans les hôtels pour manger, soit quand on n'avait pas trop le choix, on allait se faire un resto. Et donc là, dans un resto, surtout quand t'es vegan, tu manges un peu ce qu'il y a. Et souvent, ce qu'il y a, c'est une assiette de légumes, notamment quand tu m'as rejoint à Tournu, t'as vu l'assiette de légumes pour les vegans, il n'y avait pas grand-chose dedans, quoi. C'était bon, hein, mais au final, il m'en aurait fallu peut-être 3 ou 4 comme ça pour avoir l'apport en calories nécessaires.
Ah bah là, c'est vrai que c'était même pas, enfin, franchement, c'est même pas un accompagnement d'un plat parce qu'on dit il faudrait faire les légumes, le plat principal, etc. Mais là, franchement, en plat principal, c'était un poil léger quand même, hein, surtout que toi, après, tu manges du fromage. Toi, tu fais partie des gens qui mangent du fromage, hein.
Ouais.
T'es végétarien qui mange du fromage. T'es vegan ou t'es végétarien?
Ouais, je mange pas de protéines animales, sauf le fromage et puis les œufs, mais les œufs c'est un peu controversé, protéines animales ou pas, on sait pas.
Ouais, on sait pas. Bon, on va dire que t'es mixte, t'es flexi-mixtarien, végétarien, je sais pas quoi. Bref, hein, parce que je suis sûr que tu mets une ceinture en cuir de temps en temps, donc t'as pas vu.
Ah oui, non, je suis pas vegan dans le sens. Non, je suis. C'était pas une question éthique. Enfin, voilà, c'était pas pour ne pas tuer les gentils petits animaux, même si je pense qu'il faut pas toujours tuer les animaux, mais c'est juste pour. Je n'ingérais pas de protéines animales. Je n'ingérais pas parce que depuis l'arrivée du défi, je me suis un peu rattrapé en famille, tout ça.
T'as cassé le truc. Ça faisait un bout de temps que tu mangeais sans protéines animales et tout là.
Ah, ça faisait 3 ans, ouais.
Et là, ça y est, c'est fini ça.
Non, c'est pas fini, mais c'est vrai que quand on est arrivé à Menton, on s'est fait un petit resto de poisson, j'ai mangé un peu de poisson, puis après, en arrivant chez mon père, comme je voulais pas qu'il me déshérite, parce qu'il m'a dit « tu bois plus d'alcool, tu manges plus de viande, tu manges plus de poisson, t'es un sale con, je vais te déshériter », donc je lui ai fait honneur et je lui ai dit « allez, vas-y, fais-moi une côte d'agneau, vas-y », avec un petit verre de vin.
Et t'es pas allé au McDo ou un truc comme ça, t'as pas mangé un hamburger?
Non. Non, faut quand même pas pousser mémé dans les orties non plus, t'es gentil.
Ouais, je sais pas, hein, à ma compte, t'étais persuadé que j'allais me chercher un McDo au midi, mais en fait, ce qui était pas du tout.
Ah, c'est ce que tu nous as dit.
Non, mais c'était une blague en plus, et j'ai trouvé à ma compte, en plus, j'ai fait de la visite, j'ai trouvé un super magasin de courses et tout. Le gars était très sympa. Franchement, et après, bon, à ma compte, l'accueil était sympa aussi. En plus, t'as eu l'adjoint au maire, etc., qui était venu te voir et tout. Enfin, voilà quoi.
C'était sympa, c'était gentil que quelqu'un soit venu, on a fait une belle photo. D'ailleurs, il faut que je revienne vers lui parce qu'il m'avait dit qu'il mettrait quelque chose dans le journal de Macon, je sais pas quoi, et j'ai rien vu. Mais c'était sympa, j'ai jamais dit le contraire. C'était sympa, c'était simple, on va dire.
C'était simple, mais il était là, bref.
Mais il était là.
T'as réussi, finalement, sur l'histoire des hôtels, vous avez réussi à dormir à l'hôtel ou au péniche ou tous les soirs, ou il y a un moment où t'as fini par dormir dans ce van quand même?
Alors, moi, j'ai dormi une fois dans le van, dans le camping de Septem-les-Vallons. Donc, c'est, je ne sais pas si tu vois Marseille, plan de campagne, tu sais, le petit, marché, petite zone commerciale,
la
plus grande d'Europe.
La plus grande d'Europe.
C'est ça. Et donc, juste au-dessus de plan de campagne, tu as l'autoroute qui passe, l'autoroute du soleil. Et juste derrière l'autoroute, tu as le camping. Donc, c'était sympa, on était bien bercés toute la nuit. Ils nous ont accueillis, ils nous ont offert l'électricité pour brancher le van et on avait le droit d'aller aux douches. Donc, je les remercie. Mais voilà, j'ai fait une nuit dans le van.
T'as bien dormi ?
Tout le reste, j'ai super bien dormi. j'ai super bien dormi, j'ai dormi dans le toit, tu sais, là où t'as dormi toi. Et Paul a dormi sur la couchette en bas. J'ai super bien dormi. Et puis, voilà, c'était une expérience comme une autre. Moi, c'est la seule nuit que j'ai fait dans le van. Tous les autres, j'étais soit dans des hôtels, soit dans des chambres d'hôtes, soit dans une péniche.
Mais est-ce que tu aurais pu faire un mois, tu crois, en n'ayant que le van?
La question piège. Si j'avais été seul ou si j'avais été avec Tina, oui. Mais en étant accompagné par quelqu'un avec qui les nuits sont difficiles, non, j'aurais certainement pas tenu 3-4 nuits, j'aurais pas tenu, je pense.
Non, parce que même au niveau du confort, je veux dire, entre l'hôtel, la chambre où t'es bien installé, t'as la douche, t'as une vraie douche, des vraies toilettes, t'as les restaurants et tout, et puis à faire tout dans le van avec la petite popote, un petit frigo.
Bon, t'as vu, le van était quand même bien équipé, hein. Il y avait la petite, petite kitchenette, il y avait le lavabo et tout. Bon, il n'y a pas de douche, c'est pas un camping-car, il n'y avait pas de douche, il n'y avait pas de toilette. Non, je pense que ça aurait pu le faire, surtout si on avait fait des stops dans les campings, parce que finalement, quand tu t'arrêtes dans les campings, bah, t'as les douches, t'as les toilettes, donc t'as quand même un minimum de confort. Après, le problème, entre guillemets, du van, surtout quand on bouge tous les jours, c'est juste la place, parce qu'on avait quelques valises quand même, j'avais toutes mes affaires de sport, quelques affaires de rechange, il y a la bouffe. Il y a tout le reste du matos, et donc pour s'arrêter le midi pour prendre un vito, faire une sieste sur le siège passager, pour y dormir tous les jours quand tu trimbales tes affaires, ça aurait été un peu plus compliqué, tout simplement parce que finalement c'est l'aventure sans être l'aventure. C'est-à-dire, quand tu pars seul ou avec ta conjointe ou ton conjoint dans un van, why not, en fait, tu vois, c'est un peu la van life. Par contre, quand tu pars avec quelqu'un d'autre et puis avec tout un tas de matos, parce que t'es plutôt sur une aventure sportive, sur un défi sportif, que sur une aventure de vacances, je pense que c'est différent. Tu vois, je suis en train de lire le bouquin de Yvon Chouinard, le fondateur de Patagonia. Le mec te dit, il allait grimper dans les rocheuses aux États-Unis et il partait avec un duvet, quoi. Et c'est tout. Il se changeait pas, il bouffait comme il pouvait, il se brossait pas les dents, il prenait pas la douche. Enfin voilà, il partait vraiment à l'aventure. Donc t'as l'aventure, t'as les vacances dans les hôtels, les gîtes, les chambres d'hôtes, etc. Et puis, t'as l'entre-deux, t'as le van. Et je pense que le van, c'est bien soit quand t'es tout seul, soit quand t'es accompagné par ta moitié, pas forcément avec un pote ou quelqu'un d'autre.
Non, mais c'est vrai qu'en plus, avec t'avais beaucoup d'affaires et tout. Et c'est vrai que pour déplier le van, parce que t'as un lit en bas, un lit en haut, etc. Alors, autant le lit en haut, c'est vrai que quand vous êtes à deux, si t'étais en couple, c'était facile à faire. Tu peux dire en bas, je mets tout mon petit bordel. Mais c'est vrai que je comprends qu'après, pour déplier en bas, pour avoir de la place, pour avoir les affaires, pour ça aurait été une logistique qui n'était pas facile. Ou alors, il ne fallait pas que tu prennes 25 paires de chaussures.
C'est ça.
Et je ne sais pas combien d'affaires, en fait.
C'est ça. Et puis, je te dis, la difficulté, c'est aussi tous les jours. C'est-à-dire que quand tu t'arrêtes pendant 3-4 jours à un endroit, bah, tu sors le auvent, tu mets la moitié des affaires dehors, etc. Mais quand tu bouges tous les jours, bah, tu peux pas dire, voilà, je vais sortir le auvent, je vais sortir la deuxième tente, je vais mettre toutes les valises dehors, et puis on recommence le lendemain matin, quoi.
Non, parce que c'est une question qui est importante, parce qu'il y a des gens qui veulent faire des aventures, qui vont écouter, qui vont dire, comment il a fait, moi je voudrais faire des choses pareilles, etc. Tu vois, et la question de se dire si je dors, est-ce que je dors à l'hôtel, est-ce que je dors en Airbnb, maison d'hôte, etc., elle se pose, tu vois, pour les gens. Et je pense le repos, le fait que tu aies pu dormir dans des vrais hôtels, manger des vrais repas avec des buffets des fois et tout, parce que les petits déjeuners avec le petit buffet et tout, c'est bien pratique, etc. Ça joue vachement, je veux dire. C'est pas négligeable dans la préparation. Entre je mange du lyophilisé pendant un mois, et puis des fois boulangerie ou je sais pas quoi, et puis et je dors dans le van, ou alors j'ai cette solution d'être plus confort dans les hôtels ou dans des maisons d'hommes, mais ça aurait pu être des Airbnb ou je sais pas quoi. Enfin, je veux dire un truc avec du dur, avec un vrai lit, etc. quoi.
C'est tout à fait différent. Et c'est pour ça aussi que je te dis que, à la base, ce défi-là, je le voyais vraiment comme une aventure. Et donc, le premier départ que j'aurais dû prendre en avril 2022, quand Paul, c'était pas sûr qu'il m'accompagne ou qu'il m'accompagne pas, j'étais en mode partir avec une poussette, comme faisait Marie Léauté quand elle a fait son tour du monde, foutre tout mon barda dans la poussette et pousser la poussette à longueur de journée, tu vois. Et donc là, ça aurait été l'aventure. Donc tu sors un hamac ou tu sors une demi-tente, un duvet, et puis tu te mets sur le bord de la route et puis tu dors, quoi. Comme peut le faire parfois un Steven Le Yarrick quand il fait la Northscape, quand il part d'Italie et puis qu'il va jusqu'au nord de l'Europe. Le mec, il s'arrête pas dans les hôtels pour dormir. Déjà, il dort pas.
Non, mais attends, lui, il dort 3 minutes. Enfin, il est comme toi, dort 3 minutes, il touche 5 fois le gravier, il dort 5 minutes et hop, il repart. Alors,
c'est ça. Je te dis. Mais pour le coup, moi, j'ai vraiment eu cette chance que on a pu avoir des hôtels, des gîtes et des chambres d'hôtes qui nous ont accueillis, qui nous ont sponsorisés entre guillemets sur cette partie du défi. Et parfois, on avait deux chambres, parfois on en avait qu'une, parfois on avait des chambres avec parfois on avait une chambre avec un seul lit, parfois on avait une chambre avec deux lits simples. Malgré tout, on a eu effectivement ce confort d'avoir un vrai lit, une salle de bain, un buffet, parfois le resto, etc., etc. Donc ça, c'était entre guillemets du grand luxe. Ça m'a vraiment permis de bien récupérer, et je pense que ce n'est absolument pas anodin au fait que plus les étapes avançaient et plus j'ai pu crapahuter et mieux je me sentais jusqu'à la fin. Mais c'était pas tout à fait l'aventure.
Non, parce que c'est vrai que tu vois, moi, c'est quand je commence à regarder mes trucs bikepacking, etc., et j'ai demandé conseil aux gens, on m'a dit ouais, mais fais. Et puis l'autre jour, j'ai croisé un mec dans la rue qui arrivait de Hongrie en vélo et il m'a dit non, mais moi, je dors en hôtel parce que pour être bien reposé, je nettoie le vélo, je mets le vélo dans la chambre d'hôtel, je nettoie, etc. et tout. Et il me dit, toi, tu pars comment? À un Mac et un duvet, ça fonctionne? Il m'a dit waouh, il va falloir le repos, etc. Et il me dit, tu pars pour combien? Je sais pas, 1600 km. Il me dit, wow. Et tu vois, il a eu un petit doute, le gars, tu sais, sur l'histoire. Alors, ceux qui savent pas, il faut écouter Camille 350. Si vous l'écoutez pas, comme ça, vous saurez tout. Mais sur le coup, tu vois, il a un petit quai. Il m'a dit, ouais, mais moi, je dors à l'hôtel, je lave mes affaires dans les petits lavabos. Non, et c'était tout calculé, son histoire. Mais je pense que c'est une vraie stratégie. Mais
c'est ce que faisait Marie, quoi.
Ouais, de se dire.
C'est ce que faisait Marie Léauté. Son tour du monde, elle l'a fait en dormant tous les jours dans des hôtels. Donc, effectivement, elle poussait sa poussette, mais tous les jours, elle dormait dans les hôtels. Donc, ce qui fait que, elle aussi, tous les soirs, elle arrivait, elle lavait ses tenues de sport dans l'évier ou dans la douche, elle faisait sécher, puis le lendemain matin, elle repartait avec, quoi. C'est différent que véritablement ce que tu veux faire, c'est-à-dire partir à l'aventure. Parce qu'en plus, en bikepacking, tu pars pas avec un duvet, un lit, un matelas, machin, etc. Tu prends tout au minimum, quoi. Donc, tu prends un hamac. Donc, déjà, t'as pas de matelas. Bon, ok, le hamac, c'est confortable. Mais c'est certainement confortable 3 jours, 1 semaine. Au bout d'un moment, si tu commences à avoir un petit peu des douleurs au dos, on verra si tu iras à l'hôtel.
On verra. Non, mais il y a quelqu'un qui m'a dit, écoute, moi, j'ai un jardin dans lequel j'ai 2 arbres, donc tu peux venir mettre ton hamac. Je dis, ouais, c'est cool.
Non, mais avec la communauté que t'as, je pense qu'il y a plein de gens qui vont te proposer un lit dans une chambre d'amis. Ou,
je sais pas, pour l'instant, on m'a proposé des cookies.
Sur le canapé du salon, quoi.
On m'a proposé de rouler, on m'a proposé des cookies, on m'a proposé de la glace. Mais j'ai pas trop annoncé les étapes, en fait. Et comme j'ai pas. Parce que toi, t'avais les étapes qui étaient vraiment calées, etc. Puis avec des points. Puis c'est vrai que. Le fait, par contre, que tu aies des hôtels, c'est-à-dire il faut vraiment qu'on arrive à tel endroit, il y a les éducateurs dans tel endroit, faut arriver à tel hôtel, il faut faire ça, etc. Ça cadrait le truc. Moi, ça cadre moins, parce que je me dis, si un jour je veux faire 200 bornes, je ferai 200 bornes. Si le lendemain, je veux en faire que 180, j'en ferai que 180. Je suis pas attendu. Mais alors, c'est vrai que les gens me disent, c'est quoi tes étapes? Je dis, alors, j'ai pas pris l'option Komoot qui découpe tout en étapes. Parce qu'en fait, je peux pas dire si. Alors, je dis pas que je vais aller jusqu'à Nantes sans m'arrêter. Hein. Attention, je ferai bien une petite pause à un endroit ou deux. Mais tu vois, il y a mais c'est pas la même gestion. Et c'est vrai que c'est important parce que ceux qui écoutent ton truc, tu vois, parce que j'en ai eu d'autres, des gens qui ont fait des trucs comme ça, tu vois, des gens qui ont fait la traversée de la France aussi, qui ont fait d'autres trucs, etc. Ils se disent bon, on va essayer de choper un petit peu l'expérience des autres pour voir un petit peu comment ils ont fait. Et je pense que ce choix-là, il n'est pas du tout anodin. Tu vois, tu disais pour Marie-Lioté, on disait pour toi et tout, sur la récupération. Marie-Lioté, c'est le tour du monde quand même en courant et tout. Sur la récupération, sur la capacité de te sentir aussi un peu propre, etc. Alors toi, en plus, tu étais tout beau. Enfin, tu étais monsieur élégant, quoi. Quand je t'ai vu dans les rues, je me dis, mais c'est qui ce monsieur? Et donc... Enfin, voilà, je veux dire, le fait aussi de te dire, bah, tiens, je vais pas vivre en truc de sport toute la journée, je vais pouvoir me changer, me laver, etc. Ça joue aussi vachement sur la récupération, sur les, même le fait qu'on puisse te masser, enfin, mettre les tapes et compagnie, et mettre les tapes sur dans un van, ça doit être un petit peu rigolo quand même. Hein.
Bah, tu sais, les tapes, on les a souvent mis dans le van, hein, quand même. Hein. Donc, parfois dans la chambre d'hôtel, mais aussi parfois dans le van. Donc, je m'allongeais par terre, tu sais, là où il y avait le petit tapis, là. Et puis, j'avais les jambes qui dépassaient. Et puis, Paul mettait les tapes. Mais pour compléter aussi, il n'y a pas que les chambres d'hôtel et les restaurants. Il y a aussi, tout simplement, le fait qu'on a eu le van. Parce que, mine de rien, Paul, il faisait des sauts de puce tous les 10, 15 kilomètres. Enfin, quand il avait envie, il s'arrêtait et j'avais à boire, à manger. Si je voulais changer de t-shirt, si je voulais changer de chaussures, si je voulais prendre une douche parce qu'il avait pris une petite douche solaire, donc il avait une réserve d'eau d'une vingtaine, trentaine, quarantaine de litres, et puis si je voulais me rincer, je pouvais le faire. Enfin, tu vois, j'avais quand même tout ce support, tout ce soutien qui fait que, déjà, ça fait beaucoup moins de charge mentale à trimballer avec toi pendant tout le défi, et puis comme tu le dis, tu peux mieux récupérer, tu peux te sentir propre, tu peux avancer, parce que franchement, j'aurais eu personne pour me donner à boire et à manger, ça se serait fait, hein. Finalement, tu t'arrêtes dans les cimetières, tu t'arrêtes dans des bars, tu demandes à remplir tes gourdes, c'est faisable, mais c'est pas la même gestion, c'est pas la même logistique, et c'est certainement pas le même temps non plus d'effort.
Ouais, parce que toi, tu t'es jamais arrêté une boulangerie. Enfin, si, un jour, t'as mangé une glace quand même. Et on devait manger une glace, on l'a pas fait.
Non. Et on devait aussi enregistrer un épisode de podcast, on l'a pas fait non plus.
J'étais trop cuit, moi, j'arrivais pas à te suivre. Comment tu veux que j'enregistre un épisode de podcast? J'arrivais pas à te suivre. C'était pas possible. Mais tu t'es arrêté dans des boulangeries de temps en temps ou pas du tout? Enfin, non, parce que t'étais tout dans le van.
Non, je me suis arrêté juste une fois pour manger une glace.
Ah ouais, d'accord. On avait prévu de manger une glace, on l'a pas fait. Et pourtant, je t'attendais. Hein. Et je sais pas si t'as remarqué, je m'étais arrêté devant toutes les boulangeries. À chaque fois que je t'attendais sur le bord de la route, c'était devant une boulangerie. Et il y a juste à Belleville où j'ai raté, je me suis trompé de côté parce qu'il y avait un magasin de vélo qui faisait café, etc. Et tout. Et en fait, j'ai vu qu'après, en fait, je dis, mais merde, putain, c'est juste après. Je dis, mais mince, c'était là qu'il fallait que je m'arrête. Et si j'avais su, je te jure, j'aurais avancé vachement, je t'aurais attendu sur le bord de la route avec une glace. Mais je l'ai vu qu'après, tu vois, dans mon repérage, je l'ai mal vu, puis t'étais tellement focalisé en disant, ouais, les élus qui m'attendent, etc. et tout, que je voulais pas te retarder trop non plus. Mais bon, bref. Bon, il nous reste quand même à raconter des trucs un peu croustillants quand même, parce que bon, dans les trucs qui croustillent, tu t'es fait taper dessus, t'as insulté des gens,
J'ai insulté des gens, non.
Non.
Je ne serais pas permis.
À Mâcon. Non, t'as pas sifflé les voitures?
Ah, je me souviens plus.
T'as fait 7 sur tout le parcours? Non, parce que si t'as fait 7 sur tout le parcours, le mec, il siffle les bagnoles qui s'arrêtent pas, tout. Non, parce que il faut dire un truc, messieurs, mesdames. Hermano, quand il voit un endroit avec un passage piéton, ne s'arrête pas. Donc lui, il court et quoi. Et quand il voit un 4x4, il ne s'arrête pas. Et donc, au bout d'un moment, il fait, hey! Alors, tu l'as pas, je sais pas, okay, non, tu sifflais, tu t'insultais pas, c'est vrai que tu sifflais. Ouais. Hop, et d'un coup, comme s'ils allaient s'arrêter. Non, ils ne regardaient pas, mais sauf qu'il y en a un quand même qui t'a posé quelques problèmes.
Ouais, bah, il y en a eu quelques-uns. Il y en a eu un, le premier, c'était avant d'arriver à Auxerre. Donc à Auxerre, j'avais rendez-vous, enfin à 10 km d'Auxerre, j'avais rendez-vous avec le patron du centre Leclerc de Auxerre. Donc je savais que les 10 derniers bornes, ce serait sympa. Mais 4-5 km avant, écoute, j'étais sur une petite route de campagne, mais vraiment une petite route de campagne. Et là où tu as la place, en gros, de passer une voiture, puis de temps en temps... Oups. J'ai mis un petit coup dans le micro, désolé. De temps en temps, t'as deux voitures qui arrivent à se croiser, mais il faut vraiment limite que chacune des voitures, elles se mettent sur le bas-côté, quoi. Et puis j'arrive à un croisement, et en face de moi, je vois une camionnette qui s'arrête. Puis j'ai eu l'impression qu'elle s'arrêtait vraiment très très longtemps, la camionnette. D'un seul coup, elle avance, alors qu'il n'y avait vraiment aucune voiture au croisement. Et d'un seul coup, elle avance, mais tout doucement, tout doucement, tout doucement, venant vers moi. Alors je le répète, hein, moi je cours toujours à gauche. Et donc elle avance tout doucement, puis elle s'arrête au moment où, avec sa plaque d'immatriculation, le mec, il me touche les jambes. J'étais un peu étonné. Et j'ai fait le tour. On a eu quelques mots, notamment le mec me dit, bah, qu'est-ce que tu fous là? T'as qu'à aller courir ailleurs. Ici, c'est pas ta route, c'est ma route. Les coureurs, ils ont qu'à aller ailleurs. Bon, puis après, j'ai commencé à partir. Je suis revenu vers lui quand il a commencé à avoir des mots un petit peu plus désagréables. Et puis, en fait, il ne m'a pas laissé le temps de parler avec lui. Il est sorti de sa camionnette et puis il m'a poussé dans le bas-côté. Il a commencé à me rouer de coups. Voilà. C'était une petite histoire à Auxerre.
T'as porté plainte?
Qui s'est terminée. Ouais, alors j'ai pas porté plainte. La vidéo que j'avais pu faire avant qu'il me tape dessus, je l'ai envoyée à un ami qui était sur Auxerre parce qu'il connaît le commissaire et il m'a dit envoie-moi la vidéo, on va peut-être essayer de lui faire peur. Bon, je sais pas quelles suites ont été données. Non, le plus drôle, c'est quand même qu'il a arrêté de me taper dessus parce qu'il y a quelqu'un qui est passé et puis certainement il a mis un coup de klaxon parce qu'il a vu une camionnette sur le bord de la route avec le moteur qui tournait. Et donc le gars a dû prendre peur. Donc il est remonté dans sa camionnette. Moi, je me suis barré en courant et au moment où il a redémarré la voiture, il a fait, enfin, sa camionnette, il a fait marche arrière. Je me suis mis à hurler. Mais en plus, il va me rouler dessus, ce con. Pardon. Et le mec a sorti la tête de la fenêtre. Il me dit non, mais moi j'allais pas par là, je fais demi-tour. C'est juste que je t'ai vu, j'avais envie de te faire chier. Voilà, ça, c'est pour la petite histoire.
Je te jure. Non, mais franchement, il y a vraiment des barjots. Quoi. Déjà, pour penser que nos routes publiques, ça t'appartient et que ça appartient pas à des mecs qui courent, déjà, faut vraiment être couillon. Mais en plus, c'est vraiment du plaisir à la. Vraiment, il y a des gens, on sait pas ce qu'ils ont dans la tête, quoi.
Mais dans les autres trucs croustillants, c'était avant Auxerre, c'était à la piscine d'Amiens, où là la piscine m'avait donné un accès et puis je nageais dans les lignes publiques et j'étais en train de nager dans une ligne. Enfin, Paul était au bord de la ligne en train de me faire une séance et puis à un moment il y a un mec qui est venu dans la ligne. Puis je sais pas, ça l'a dérangé que je sois là en train de nager, en train de faire des éduques. Donc à chaque fois qu'il me croisait, il me mettait un petit coup dans les jambes en fait. Pim, un petit coup dans les cuisses comme ça. Une fois, deux fois, trois fois, puis la troisième fois, je me suis arrêté. J'ai dit, c'est bon, t'as un problème. Et le mec. Et le mec a commencé à s'énerver et puis quand Paul l'a vu quand il s'est arrêté au bout de la ligne, il a essayé de discuter avec lui et le gars lui dit bah oui mais il est dans ma ligne. Bah, en fait il est dans une ligne publique et puis il était en train de nager avant toi, donc c'est quoi le problème? Ouais mais non mais il est pas d'ici, il a qu'à aller nager ailleurs. Voilà. Donc de temps en temps on a des spécimens assez marrants. Puis j'en ai recroisé un à Toulon aussi.
Ah ouais.
En arrivant sur Toulon, un mec qui a grillé le feu et puis moi j'étais en train de traverser justement, alors en courant oui, il a grillé le feu et puis il est parti aussi du principe que c'était sa route et puis comme lui il était engagé, de toute façon il était prioritaire. Bon, ce qui est dommage c'est que 300 mètres plus loin il y avait les flics et ils ont proposé d'aller l'arrêter et puis de lui mettre une jolie petite amende.
Ah ouais, il l'aurait été lui.
Voilà.
Bah écoute, tant que ça lui fera les pieds.
Mais après, ouais, dommage, c'est un livreur, donc son permis, c'est son outil de travail, mais ça se trouve, il n'en avait plus, hein, vu comment il réagissait.
Ouais, puis maintenant, il va détester les coureurs. C'est-à-dire que le prochain coureur, tu sais ce qu'il va faire? Il va le voir sur la route,
bah, il va s'arrêter. L'éviter, il va l'écraser.
Il va l'écraser, il va le rouer de coups et tout, il va dire « c'est pour l'autre qui courait à travers le truc et tout, en plus, je l'ai vu dans le journal, le mec, et tout, et il a fui, c'est maintenant, ça. Il est parti à l'autre bout de la France. » Méfie-toi. Hein.
Donc désolé, hein, si vous êtes la prochaine victime de ce monsieur à Toulon, je suis désolé.
Ouais, méfie-toi qu'il n'ait pas des amis russes ou je sais pas quoi, tu sais, on sait jamais.
Ouais,
quoi que t'as une amie russe maintenant, toi.
J'ai une amie russe. Attends, rafraîchis-moi la mémoire.
Oh, c'était une blague, mon ami. Allez.
Mais la réceptionniste de l'hôtel à Tournus, je ne sais pas si elle était russe ou d'Europe de l'Est, mais oui, certainement.
N'empêche que l'accueil, il faut le dire, parce que franchement, moi, je l'ai vu, tu as été accueilli comme un prince, hein, etc. Franchement, ouais. Ils t'ont fait ton linge, etc. Ils ont mis le vélo à l'abri pour moi et tout. Enfin, franchement, et il faut... les partenaires qui t'ont, les hôtels, etc. et tout, ils t'ont reçu vraiment comme des princes. Hein.
Comme des princes, ouais. Ouais. Et particulièrement à Tournus, ils nous ont mis à disposition une suite parce que je ne savais pas, mais Tina et les enfants m'ont rejoint. Donc nous, on avait le droit à une suite et Paul a eu le droit à une belle chambre. Tournus, c'est quand même un hôtel 4 étoiles. Hein, donc ouais. Franchement, je les remercie. C'était l'hôtel Le Rempart. Donc si vous voulez y aller de ma part, allez-y et demandez Jean-Christophe, c'est le patron. Et vous lui direz que vous avez entendu parler de son hôtel sur le podcast Kilomètre 42.
Et le petit déjeuner du matin en plus, alors je peux vous dire, alors là, vous allez vous en mettre plein la panse. Hein,
Et surtout si vous aimez le miel.
Par contre, l'assiette végétarienne, si le lendemain vous voulez faire du sport, vous serez un petit peu limité, hein, mais c'est vrai que c'est marrant. Par contre, c'est vrai que c'était un super beau cadre. Alors franchement, et puis reçu ouais. comme un prince, là franchement, il faut le dire parce que ils t'ont ouvert les portes, etc. et tout. J'ai même vu que tu avais fait ta petite lessive et tout. Enfin, tu es parti vraiment nickel là-dessus. Et il faut les saluer.
C'était adorable.
Ouais.
Ouais, tout à fait. Ça fait partie des choses que je voudrais faire, comme je te dis, que j'ai pas forcément le temps, je me donne pas forcément le temps de le faire là, 3 semaines après la fin du défi, mais remercier personnellement chacun des hôtels qui m'a accueilli, chacun des gîtes, chacune des chambres d'hôtes, mais les remercier personnellement et les remercier aussi publiquement parce qu'on a fait quelques posts sur Insta, sur LinkedIn, mais voilà, j'aimerais vraiment faire quelque chose pour les remercier parce que ils m'ont tous globalement reçu gracieusement, ils m'ont ouvert les portes. Alors oui, on a pris quelques nuits d'hôtel et à deux forcément ça grimpe vite, mais d'ailleurs on pourra parler du budget si tu veux pour finir, mais globalement je remercie tous ces gens qui m'ont reçu et en plus qui m'ont reçu comme tu le dis avec comme des princes quoi, comme un prince comme des princes puisque Paul et moi on a été reçus comme des princes. Ouais.
Alors il y a deux sujets quand même qui restent en suspens, donc le budget et combien t'as collecté.
Alors le budget, j'ai presque fini de faire la compta. En gros, si on considère tout ce qui est autour de la préparation du défi et des coûts liés au défi, donc j'ai commencé à compter à partir de fin août. Alors quand je dis compter, c'est pas mon salaire et autres, hein. Non, c'est vraiment tout ce qui est propre au défi, les chaussures, les entrées à la piscine, parce que Castres a décidé de pas m'aider financièrement là-dessus, donc je payais mes entrées à la piscine une à deux fois par semaine. Mais voilà, un peu d'alimentation, des choses comme ça. Et puis, tout ce dont j'ai eu besoin pendant le défi. La location du van, la nourriture, le lyophilisé, l'alimentation dont on parlait tout à l'heure. Parfois, quelques repas, parce que quand on était reçu dans des hôtels, des fois, les repas n'étaient pas compris. Donc, on prenait le repas quand même au restaurant de l'hôtel. Donc, tout ça, on est sur un budget de 11 500 euros.
D'accord.
Ça commence à chiffrer quand même.
Ça chiffre, ouais.
Sa chiffre, sachant que sur les 11 500 euros, en gros, avant de lancer la cagnotte GoFundMe, j'avais collecté à peu près 3 000 euros de dons de gens qui m'aidaient pour préparer le défi. J'ai reçu 1 000 euros de sponsoring, deux fois 500, une fois par la joaillerie Windeshausen à Luxembourg et une fois par le cabinet d'avocats Molitor à Luxembourg, donc deux boîtes luxembourgeoises, alors que je traversais la France. Donc ça fait que, en gros, j'ai récupéré 4 000 euros d'aide, mais tout le reste du budget des 11 500 euros, c'est moi qui l'assume. Donc ça commence à faire un budget relativement conséquent. Et dans ce que j'ai levé comme fonds, écoute, la cagnotte sur GoFundMe, elle avoisine les 5 400 euros. J'ai aussi un ou deux chèques qui traînent que des amis m'ont donné, donc qui vont venir grossir la cagnotte. Et puis je l'ai dit, j'avais fait une première cagnotte avant entre Patreon, Ko-fi et des dons directs. J'étais à peu près à 3 000 euros.
D'accord. Bon, c'est bien. T'es content?
Ouais. Je suis content parce que même si c'est dur d'assumer presque 7 000 euros à titre perso pour pouvoir aller au bout du défi, moi je voulais reverser au moins 20% aux deux causes, donc 10% à Imagine for Margot et 10% à Une bouteille à la mer. Donc 10% de 11 500, ça fait 1 100 euros. Et au final, je vais reverser la totalité de la cagnotte GoFundMe, donc je l'ai dit, presque 5 400 euros. Donc on est plus à 50% du budget que je vais reverser. plus que les 20% sur lesquels je m'étais engagé et qui me tenaient à cœur.
C'est cool.
Donc ça fait mal d'assumer 7000 balles tout seul, mais bah voilà, c'est le jeu, hein. J'ai pas eu de sponsor parce que j'ai pas forcément fait le job, j'ai pas forcément fait ce qu'il y avait à faire, parce que je me suis concentré sur la prépa, je me suis concentré sur l'administratif, je me suis concentré sur la logistique, je me suis concentré sur la vie de famille et sur le boulot, tout ça avant de partir. Et je voudrais aussi rendre hommage à ma sœur et à mon associé Grégory qui ont fait un travail énorme sur la com. Moi, j'ai pas touché à mon compte Instagram et à mon compte LinkedIn pendant tout le défi, et c'est eux qui ont assuré la com comme des fous. Tina aussi, qui a non seulement contacté les hôtels mais qui a contacté les journalistes, et la petite couverture médiatique qu'on a eue, bah, c'est vraiment grâce au travail de ces trois personnes là, plus relais de certains podcasteurs. On revient encore sur Casquette Rouge, hein. Donc franchement, je remercie toutes celles et tous ceux qui ont aidé, et en particulier ces personnes là
et maintenant, bon, pour la prochaine aventure, les gens y verront aussi. Ce sera peut-être plus facile après d'avoir des sponsors. Mais avant de parler de la prochaine aventure, parce que ça, c'est pas le moment. Comment on atterrit après un mois comme ça?
Comment on atterrit? Eh ben, écoute, on atterrit mal. Je te l'ai dit, j'ai du mal. J'ai du mal à reprendre une vie normale. On atterrit mal aussi parce qu'en fait, ça a été, l'atterrissage, il a été violent. Violent parce que je m'étais dit, j'arrivais à Menton, c'est à 40 km de chez mon père qui habite au-dessus d'Antibes, et je me suis dit, on va prendre quelques jours, comme ça on va atterrir tranquille, quoi. Quelques jours où j'irai juste courir une demi-heure, une heure tous les jours, et puis pas reprendre le boulot tout de suite, la vie de famille doucement, tu vois, où il y a mon père, il y a Tina, il y a les enfants, enfin on vit un peu dans une ambiance apaisée, et en fin de compte pas du tout, parce que Tina commençait une nouvelle formation dès le lendemain. Donc dès le lendemain, on a déposé mon fils qui était venu nous voir, qui habite au Luxembourg, donc on l'a déposé à l'aéroport, et nous on est reparti direct sur Castres. Donc déjà dès le lendemain, temps de respirer, et puis après, bah finalement, t'arrives au milieu de la semaine, mon épouse est en formation, les enfants il faut les ramener à l'école, à la crèche et tout, puis bah là tu reprends une vie normale, quoi. L'atterrissage a été violent aussi parce qu'en fait j'ai pas du tout célébré avec Paul. Paul était un peu fâché de l'arrivée, on s'est pas retrouvé à l'arrivée, il a pas vu mon point GPS sur la carte qui était arrêté à un endroit, il a pas réussi à se garer, donc en gros alors que j'étais en train de donner une interview à la journaliste de Nice Matin qui était là pour faire un beau papier, hein, on a quand même passé 2 heures avec elle, il a appelé mon épouse, il a dit bon bah vous êtes où, faut que Hermano récupère ses affaires, moi je me casse. Donc en fait, bah il a pas célébré avec nous, et franchement l'atterrissage de ça, c'était très 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 violent. Et puis une semaine après, quand j'ai échangé avec lui et que ce qu'il en ressort lui, c'est que j'étais pas assez dans le dur, donc lui il a pas joué son rôle de coach, et que accessoirement pour lui finalement c'était pas un défi sportif, c'était plus un défi caritatif que vraiment quelque chose de sportif, là je peux te dire que ça te remet le deuxième, troisième, quatrième coup de bâton derrière la tête, et j'arrive pas à atterrir, quoi. Enfin j'ai pas atterri en fait, tu vois. Déjà je te l'ai dit, je réalisais pas forcément l'ampleur ou le côté extraordinaire de ce que j'ai fait, mais alors avec des atterrissages comme ça je réalise encore moins, quoi.
Ouais, mais je pense que c'est aussi la difficulté de entre toi, comment tu le vis, puis quelqu'un qui est à l'extérieur dans la logistique et aussi qui est entraîneur et tout, qui a sa vision à lui aussi de comment tu le fais, et de ce que tu places toi dedans, est-ce que lui il place, comment il place les choses, etc. Bon, après je pense qu'il y a aussi une fierté aussi de voir que tu l'as bien fini quand même ton truc, hein, que t'arrives à nager tous les jours et autres. Mais c'est vrai que il y a le côté compétiteur aussi, côté sportif, aventure et tout, qui est, vous le voyez pas de la même manière.
Ah non, c'est clair, on le voyait vraiment pas de la même manière. Moi, je voyais ça comme une aventure, sans prise de tête, aller d'un point A à un point B tous les jours. Au fur et à mesure, les rendez-vous se fixaient avec les élus, avec les journalistes, etc. Et ça, j'en étais super content parce qu'en fait, c'était pas pour parler de moi, c'était pour parler du défi, et en parlant du défi, de parler de Imagine Farmago et une bouteille à la mer. C'était ça mon objectif. J'ai pas envie d'être célèbre, j'ai pas envie qu'on me reconnaisse dans la rue. Ah, c'est toi, le mec qui a traversé la France. En fait, je m'en fiche. Puis de toute façon, je peux te dire, il y a personne qui me reconnaît. Dans la rue,
t'as pas de bol, moi tu vois, ça m'arrive ce matin encore, ça m'arrive, c'est en véridique. En plus, alors je fais un petit coucou à la dame qui m'a reconnu ce matin, et je suis désolé, j'ai dit bonjour, mais je me rappelle pas du prénom, donc qu'elle m'envoie pas le mardi matin vers je sais pas quelle heure, 10h30, si vous m'avez croisé, je suis désolé, j'ai dit bonjour, mais je sais plus, voilà, c'est comme ça, toutes mes excuses.
Ben voilà. Donc tu vois, toi, on te reconnaît, mais bon, toi, t'es un podcasteur et un sportif reconnu. Moi, j'ai juste fait un truc de dingue qui est de traverser la France en courant et un peu en nageant. Mais moi, ce que je voulais surtout, c'était mettre en avant ces deux causes-là, les soutenir financièrement, mais aussi avec un peu la com qu'on a fait autour. Et pour mon accompagnateur, en l'occurrence Paul, lui, il voyait ça vraiment comme un défi sportif. À tel point que même quand on était, quand on allait nager, quand on n'était pas en lac, quand on était en piscine, on faisait des entraînements de piscine. Alors qu'en fait, moi, mon objectif, c'était d'aller nager une heure et demie, et me détendre tout en m'éclatant à nager. Quoi. C'était l'idée du défi swim run et pas du défi run et va t'entraîner à la piscine. Mais bon, voilà, c'est fait, c'est fait.
Écoute, moi je l'ai vu, c'est vrai, parce que je peux en témoigner. Hein. J'ai vu à Belleville les entraînements et tout que t'as fait, etc. et tout, les exercices, fais comme ci, fais comme ça, etc. et tout. Mais je pense aussi après qu'il y avait une fierté de sa part de dire c'est mon athlète. Et tu vois, enfin franchement, parce que t'es un athlète, que tu le veuilles ou non, tu vois, tu dis ouais, je suis pas connu et tout, mais t'as fait un défi de dingue, t'as fait un truc gigantissime. T'es un athlète, je veux dire, tu vois, t'es un athlète de putain d'athlète de haut niveau, mon gars, et t'as fait un truc. Non. Arrête, parce que vous voyez pas, vous l'entendez là, il sourit et tout là, il va devenir tout rouge. Mais ce que t'as fait, c'est juste énormissime, je veux dire. Quand tu dis aux gens, attends, et tous les jours, je dis, ah, je suis allé en vélo là-bas, et tout, qu'est-ce que t'as fait? Je suis allé voir un copain qui traversait la France en courant. Mais, quoi? Il y a des gens qui font ça, mais ils sont fous. Mais c'est qui veut faire ça et tout? Mais ils sont malades les gens de faire ça. Tu vois, je veux dire, dans l'esprit, quand tu dis à ça à quelqu'un, je lui dis, attends, c'est pas possible ton truc. C'est pas possible. Donc, c'est juste gigantissime, tu vois. Là, si sur ma plateforme d'enregistrement, j'avais un petit bouton, là, je sais plus quel bouton, c'est les applaudissements, j'ai peur de tout planter. Si j'avais le bouton applaudissement sous la main, là, je te mettrais une salve d'applaudissements, tu vois, on ferait une hola, tu vois, dans tout le truc. Faut le dire, tu vois, ce que je veux dire. Et je pense qu'il y avait aussi une fierté, tu vois, moi, je l'ai vu faire. Je pense qu'il y avait une grande fierté de sa part aussi de voir que t'as rêvé frais comme un gardon. Après plusieurs jours, et que après t'étais capable de nager, etc. Tu vois, et tout. Et que voilà. Donc, voilà. Écoute. Mais t'es un putain d'athlète. T'as fait un truc gigantissime, tu vois. Bravo, quoi.
Bah, merci. Mais je réalise pas encore. Peut-être je réaliserai. Et c'est Laurie qui disait ça. Peut-être que je commencerai à réaliser justement quand je prendrai quelques jours de congé et qu'on coupera un petit peu avec le boulot, le quotidien, etc. Bon, c'est pas encore au programme. Hein, donc peut-être en fin d'année, on verra. Mais pour l'instant, j'atterris pas et je réalise pas exactement ce que j'ai fait. En tout cas, il y a juste pour, je pense, pour terminer, parce qu'on avance un peu sur l'heure et je t'avais dit qu'il allait bientôt falloir que je quitte. S'il y a un apprentissage que je peux tirer de tout ça, et s'il y a des gens qui t'écoutent, qui se posent la question de faire un truc comme ça, partez en éclaireur partez en mode test avec l'éventuel accompagnateur qui vous emmènera. Voilà, avec mon entraîneur, ça faisait plus de 15 ans qu'on se connaissait. On pensait qu'on se connaissait très bien. On pensait qu'on arriverait très bien à vivre l'un avec l'autre pendant un mois. Et au final, on s'est très vite rendu compte qu'on n'était pas mariés ensemble et qu'on n'avait pas forcément le même point de vue sur certaines choses et que c'était un petit peu difficile de cohabiter. Et quand au troisième, quatrième, cinquième jour, ça commence déjà à se tendre un peu, je te raconte pas à quel niveau de tension on est au 29e jour quand on arrive à Menton. Enfin, si, je te l'ai raconté. Oui, hein. Il a pris ses affaires, il s'est barré et limite, il a laissé les miennes sur le bord de la route. Mais vraiment, le conseil que je peux donner, c'est tester avec votre accompagnateur. Partez 3 jours, une semaine, 10 jours, même pas forcément pour faire du sport. S'il y a des gens qui veulent se lancer dans ce genre de défi, je sais pas, 15 jours, traverser les Pyrénées avec une assistance et dormir dans le van ou dormir dans un hamac avec un copain ou une copine à côté, partez avec ces gens-là pendant 3-4 jours en vacances et vivez avec eux 24/7 et vous verrez si ça marche ou si ça marche pas. Et si ça marche pas, insistez pas, essayez pas de le passer au chausse-pied, passez à autre chose, quoi.
Voilà.
Ou bon, passez à quelqu'un d'autre.
C'est le conseil. Donc là, vous aurez le, en fait, ce sera le chapitre 12 de ta biographie, comment j'ai traversé la France en swimrun. Chapitre 12, choisissez bien. Mais non, mais t'as raison de le dire et c'est vrai que ça fait important. Et ça me fait penser aussi à toutes les vidéos, tu sais, qu'on voit sur les accompagnateurs de trail, sur les, ceux qui font les assistances, etc. On parlait tout à l'heure des casquettes vertes en plaisantant, mais Cécile Bertin qui fait l'assistance, c'est une vraie maman, tu vois, qui le cajole un petit peu, enfin cajole c'est un mot, grand mot, mais qui fait attention à tout ce qu'il a préparé. On avait parlé de Mathieu Blanchard et Alix.
Et Alix.
Qui, vraiment, où eux, ils sont très célèbres parce qu'ils sont en couple, etc. Et tout. Puis, hein, il y a eu vraiment des images là-dessus. Mais on voit, on sait aussi très bien. Et puis, on pourrait parler de tous les sportifs, parce que j'en ai encore vu aussi d'autres ce week-end, sur la Western et compagnie, comme ça, où c'est vrai que cette alchimie potentielle, elle n'est pas simple. Alors, sur une course de deux jours, bon, tu te dis d'accord. Mais là, c'est vrai que si tu pars un mois, et encore, c'était un mois avec... Il y avait les hôtels, vous n'étiez pas toujours en même chambre, etc. Il y avait ce niveau confort et tout. Mais je me dis, si c'était un mois en van, un en haut, un en bas, etc., tu rajoutes ces...
Ça aurait peut-être été plus facile parfois. Hein,
ouais.
Parce que je te dis, les premiers jours où on était dans la même chambre avec deux lits séparés, mais dans la même chambre avec un qui est insomniaque et l'autre qui ronfle, c'est vite monté en tension, quoi. mais tu vois, je comprends beaucoup mieux. En fait, avant, je n'avais pas forcément fait attention, mais je comprends beaucoup mieux pourquoi certaines aventurières et certains aventuriers qui se lancent dans des trucs comme ça, ils sont très rarement accompagnés par leur coach.
Ouais.
Et c'est souvent par leur conjoint ou leur conjointe ou par des très bons potes d'enfance ou autre, ou par l'équipe média. Tu prends un Steven Le Yarrick, quand il va traverser un désert, c'est l'équipe média qui l'accompagne, c'est pas son coach. Et je comprends mieux pourquoi, en fait, parce que le coach, il a une vision, et l'athlète, il a une vision. Je crois que ça peut pas matcher. Alors, il y a toujours des exceptions pour confirmer les règles, hein, mais je crois que coach et athlète sur une aventure, ça peut pas matcher.
Et t'en as parlé à Lilian de ça, que lui qui a traversé l'Atlantique à deux sur un petit bateau, sur une coquille de noix, là, tu... Ça, c'est un truc qui est...
Bah, on en a parlé. Je garderai les résultats. non, mais il m'a dit que de toute façon, c'est clair, celui avec qui il a traversé, c'était pas son coach, c'était un pote, donc déjà, c'est différent. Et puis, y avait de la proximité, mais il y avait aussi la promiscuité, ce que nous, on n'a pas. C'est-à-dire que si Paul et moi, on se tapait sur la tronche, y en a un qui prenait le van et qui rentrait chez lui, ou moi, je prenais un avion, ou un train, ou un vélo, ou je partais de l'autre côté, en fait. Quand t'es au milieu de l'Atlantique pendant 47 jours... Il n'y en a pas un des deux qui peut dire bah moi je me casse, hein. Ça marche pas. donc quand c'est deux personnes qui sont relativement intelligentes, elles finissent par s'entendre, même si c'est de l'amour vache, elles finissent quand même par s'entendre.
Mais disons-le,
d'autres conditions.
C'est toutes les équipes sont comme ça, parce que quand tu lis maintenant, pour ceux qui sont fans de foot, l'équipe de France 98 qui est championne du monde, t'as l'impression qu'ils sont tous potes, alors qu'en fait il y en a la moitié qui se parlent pas avec l'autre moitié. Zidane, il est pote avec certains, il est pas du tout pote. Zidane et Deschamps, par exemple, ne pouvaient pas s'entendre, et donc il y avait des clans, des trucs comme ça, et pourtant on s'en rend pas compte, mais pourtant ils ont vécu 5, 6, 7, 8 semaines ensemble pour arriver à préparer ça. Et là on pense à ceux qui ont préparé la Coupe du Monde de rugby, à ceux qui ont les Jeux Olympiques et des trucs comme ça, qui ont des stages en permanence. Donc ça fait partie de la vie des aventures, et c'est vrai que c'est intéressant d'en parler, d'avoir cette vision là dessus. Bon, écoute, maintenant, je veux pas te demander quelle est ta prochaine aventure.
J'en sais rien.
Parce que c'est trop tôt. Non, mais c'est trop tôt. Faut laisser le temps de digérer, etc. Moi, bien sûr, tu sais, j'attends la biographie, j'attends les récits d'aventure, j'attends les conférences, j'attends tous ces trucs là, de voir un petit peu ce qui va émerger du nouveau Hermano, tu vois. Mais j'ai envie de te demander, en fait, si tu penses que t'es un Hermano différent.
Je pense qu'il y a certaines choses qui ont changé en moi. Je t'ai dit, je suis pas très bon pour tirer des conclusions ou des choses comme ça. Je pensais pendant le défi que quand je rentrerais, je serais un peu plus apaisé, un peu plus calme, un peu moins sous tension sur certains sujets. En réalité, se reprendre un mur en arrivant, tu reprends vite tes mauvaises habitudes, et notamment un peu de tension. Enfin, je pense à ça avec les enfants, notamment. Des fois, tu commences à voir rouge. Donc finalement, ça m'a pas tant changé que ça. Après, ça m'a changé sur certaines façons de voir le monde et de voir les choses et de voir la vie, et j'en parle souvent depuis 3-4 semaines. En fait, j'aimerais avoir une vie un peu plus slow, tu vois, essayer de moins me prendre la tête, et sur des sujets sur lesquels avant on pouvait tourner en rond pendant des jours, en fait me dire voilà quoi, voilà, laisse tomber. J'ai pas encore réussi à faire ça avec les enfants, mais peut-être qu'une fois que j'aurai atterri et que j'aurai pris conscience du nouveau Hermano, on pourra en reparler.
Eh ben écoute, c'est une belle conclusion, en tout cas. Je te remercie parce qu'on a fait un bel épisode encore. Hein. Enfin, 1h33 à papoter.
1h30, c'est pas mal.
1h30 à papoter. Si, j'avais quand même une dernière question. T'as réussi à enregistrer ton fils, ton petit, là, quand il défiait Grippa?
Oui, il faut que je retrouve l'audio, mais j'ai réussi à l'enregistrer.
Oh, qu'est-ce que c'était mignon. Vraiment, qu'est-ce que c'était mignon. Ça aussi, il fait partie des souvenirs, de la belle boîte à souvenirs. Vraiment.
Eh ben, tu sais quoi? Ouais. Ce matin, pendant 2 heures, l'école qu'il va fréquenter l'année prochaine, parce qu'il a presque 3 ans, donc il va rentrer à l'école en septembre, qui faisait un petit accueil pour les futurs élèves. Et donc, à un moment, ils sont partis jouer dans la cour de récréation, puis les parents étaient là. Et puis, ils prenaient un vélo ou une trottinette ou une draisienne. Et puis, à un moment, il a couru. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je cours. Mais comment ça tu cours? Je cours comme toi, papa, comme le défi Agrippa. C'était trop mignon. Voilà.
Bah écoute, ça fait partie des belles et c'est une belle image parce que je pense aussi tes enfants et tout de devoir réussir ça. Et puis faut le dire, toi aussi, parce que y a des moments où tu n'es pas très confiant sur tes trucs, hein, confiance en toi, etc. Mmh. Hein, c'est pas trahir un secret parce qu'on en a tellement parlé de tout ça. Que tu sais.
Ça, c'est bien une chose qui a changé, pour ouais. le coup, tu vois. Je crois que mon syndrome de l'imposteur, notamment sur la course à pied, s'est un peu estompé. Ouais. Et je pense être plus capable de faire certaines choses qu'avant.
Eh ben, j'espère bien. J'espère bien, parce que franchement, après avoir fait ça, si tu reviens avec un syndrome de l'imposteur en disant je suis pas un coureur, franchement, à part bouffer des. Je sais pas quoi, tu vois, on te ferait bouffer tes talonnettes. Allez. Sur ce, écoute, je remettrai bien sûr tous les liens en note de l'épisode. La cagnotte est terminée ou les gens peuvent encore participer?
Alors la cagnotte, elle reste encore ouverte. Après, je suis pas sûr qu'elle reste ouverte sur GoFundMe parce que avec l'histoire du policier qui a tiré sur le petit jeune, ouais. Et ils ont fait une cagnotte sur GoFundMe et apparemment GoFundMe est sous le coup d'une enquête et donc je vais peut-être vite faire retirer ma cagnotte parce que j'aimerais pas que tous les gens qui ont donné, bah leur argent soit séquestré puis qu'on puisse pas le reverser aux deux associations.
Donc peut-être pas sur le biais comme ça, mais t'as une association, t'as monté quelque chose pour
Ouais, j'ai monté l'association Agrippa et donc il y a un compte bancaire, donc si les gens veulent continuer à donner, bah, soit ils me contactent ou alors ils vont sur agrippa.me, il y a un bouton donner et ils peuvent donner directement, faire un don direct, un virement direct sur le compte.
Et ben ça marche. Et ben écoute, tu sais quoi, moi je mets tous les liens vers ta aventure, etc. Je te remercie encore pour le temps passé, toujours aussi un régal, hein, etc. Merci encore beaucoup, encore bravo, hein, franchement. Je mettrai des applaudissements. Je vais trouver des applaudissements dans ma banque là, de son. Je vais mettre des applaudissements, des hola, etc. Là, c'est plus que champion du monde de ton monde. Hein. Franchement, bravo. Hein. Là, le titre, le champion du monde de l'année, tu vois. Si on mettait des titres, on fera des cérémonies, tu vois, du champion du monde et tout. Franchement, bravo. Et puis, écoute, si vous avez des idées, de toute façon, et si vous avez envie de faire pareil qu'Armano, contactez-le. Hein, il va être fier. Tu vas pouvoir faire du coaching d'aventurier comme ça, tu vas voir maintenant. Et en attendant, maintenant, on se retrouve, nous, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je sais qui est l'invité, parce que c'est déjà enregistré, etc. On parlera, tu sais, quelqu'un qui court pour des associations. S'il parle le même genre de truc, mais quelqu'un qui court pour des associations. Et il s'est déjà enregistré, c'est déjà en stock, c'est déjà tout programmé, etc. Donc, ça, je peux le dire. Mais si la cause me fout les jetons, c'est la maladie de Charcot et tout, ça me fout les jetons, cette maladie et tout. J'ai publié un réel il y a 2 jours là-dessus, ça me fout vraiment les jetons. Et donc, c'est important aussi, court pour cette cause-là, une autre cause, et qui nous expliquera aussi comment on fait pour des causes comme ça. Bref, allez, sur ce, je te laisse, je te libère. Merci beaucoup, Hermano. Bravo encore. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.